à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de la F1 consacrée au Grand Prix de Malaisie. Un grand... Oui?
Non, c'est juste que je trouve ce Grand Prix très magnifique, c'est juste.
C'est ce que j'allais dire, puisque c'est vrai que ce Grand Prix mouvementé a vu la victoire incroyable, exceptionnelle, surprenante de
Pourquoi
Fernando Alonso.
Pourquoi tu rajoutes surprenante, Sidney? Incroyable, exceptionnelle, d'accord.
Et surprenante de Fernando Alonso, même si c'est peu banal de le dire, c'est le cas.
Hein. Donc, je dois quand même dire, Shinji, si tu me le permets, parce que vous n'y avez pas eu le droit. Donc, je tiens vraiment
Si, moi j'y ai eu droit, parce que j'ai pensé à mettre Eurosport juste au moment où ils ont.
Oui, mais à tous ceux qui n'ont pas eu le droit.
C'est pas la peine de le mettre.
À tous ceux qui n'ont pas eu le droit, je tiens à faire ce cadeau. Fratelli d'Italia, l'Italia, c'est desta. Tel est le mot di Scipio, c'est cinta la testa.
Stop, stop, pas sur montage.
Mais Dino, nous ne sommes pas seuls.
Puisque nous recevons un membre du club 153.
Du team.
Oui, enfin bah, maintenant, alors, du team. Mais, puisque nous recevons Bûcheur.
Bonsoir.
Bonsoir, Bûcheur.
Bonsoir, Bûcheur.
Bonsoir, bonsoir.
Passez un bon dimanche.
J'ai passé un très bon dimanche parce que le Grand Prix était intéressant. Très déçu par le final.
C'est vrai que...
C'est pas grave, je vais être réconforté.
Disons que dans toutes les crevaisons qui ont eu lieu, j'aurais bien aimé qu'il y en ait une...
Ta gueule.
Vous l'aurez compris, il en profite, hein, parce que c'est sans doute la seule fois de l'année...
Ta gueule.
C'est quand même la seule fois où un type gagne, tout le monde dit « Ouais, mais il a quand même gagné sur une voiture de merde !»
Mais... Même le mec le dit.
Voilà, non, mais, patron.
Hey, Dino, pense que c'est quand même vache ce qui arrive aujourd'hui. C'est que l'année dernière, ça s'est passé à Silverstone. Donc, tu as eu l'espoir pendant longtemps. Ça s'est passé. Du coup, tu as eu une demi-saison pour croire qu'il allait pouvoir reproduire l'exploit.
Ah, mais non, mais.
Là, il a grillé sa carte d'entrée. Fini. La saison,
mais
c'est
non.
Terminé.
Mais non, mais voilà. Au contraire, c'est ce qui est très bien. C'est que ça va calmer un peu le jeu. On a sauvé la saison. Ça y est. Non, mais ça
c'est pas grave.
Voilà, on l'a notre victoire. C'est bon. Maintenant, on peut vivre une saison de merde. Ça ne me dérange plus. On n'aura pas la pire
saison
de la Scuderia. Donc, ça va.
C'est vrai, il y a ça. Par contre, quand on regarde le résultat de Massa.
En plus, on peut en parler maintenant parce qu'il y a très peu de chances qu'on en reparle pendant le top 10. Hein, j'ai dit. Rassure-moi.
Rassure-moi, tu peux y aller.
Oh, on aurait pu en parler pendant les qualifs.
On va trouver un moment.
Oui.
On va vous parler de Felipe.
Ouais.
Quand? On ne sait pas.
Suspense.
Mais en attendant, Shinji.
Oui.
Rappelle-nous quel jour nous sommes aujourd'hui, puisque nous enregistrons exceptionnellement dimanche.
Oui. Donc,
par hasard, on vous prévient, au cas où qu'il y aurait genre Fernando Alonso, Kit Ferrari, Lewis Hamilton arrive chez Ferrari. Lundi ou mardi, on n'était pas là.
Voilà.
Voilà. Voilà.
Non, c'est Perez qui va aller chez Ferrari.
Non. Lui filez pas une trapanelle entre les mains.
Je suis d'accord avec toi, mais par contre, est-ce que Ferrari va réaliser ce qu'il ferait dans ce cas-là? Je suis pas sûr.
Oui,
regardez bien, ils ont bien pris Badoer.
Là, ils ont plus besoin de prendre Badoer, ils l'ont déjà.
Non, mais c'est je dirais, les Bourdes, ils sont champions quand même pour les faire.
Ouais. On est dimanche, donc je n'utiliserai pas le passé, même si pour vous qui nous écoutez, c'est le passé.
C'est vrai.
Nous sommes le 25 mars.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'éphéméride de Shinji. Une rubrique si drôle qu'elle fait mérite.
Et donc, en ce 25 mars, le chiffre du jour, c'est un chiffre qui va vous dire quelque chose, même s'il n'a aucun rapport, puisque c'est le chiffre 12.
Est-ce que c'est une unité de monnaie, par exemple?
Non, pas de monnaie.
Donc c'est une unité.
Bah non, c'est pas... Enfin...
Comment tu veux que 12 soit une unité?
C'est... Voilà, je vois pas trop...
non, mais une unité de monnaie, par exemple, 12 euros, c'est une unité de monnaie.
Non, voilà, non, c'est pas une unité de monnaie.
Ah, bande de nuls! Je vous rappelle, aujourd'hui, c'est moi qui gagne.
C'est vrai que 12 euros, c'est la valeur de la Ferrari cette année, mais bon.
D'accord, t'es généreux.
Bon, passons, messieurs, passons.
12, je sais pas.
Unité de longueur?
Non.
Le nombre de bières dans un pack?
Oui, ça peut l'être, mais c'est pas ce qui nous concerne aujourd'hui.
C'est un nombre de d'objets?
Ça peut être considéré comme un nombre d'objets.
C'est-à-dire, c'est des choses qu'on peut pas te payer, Sidney.
C'est quelque chose qui, a priori, ne peut pas être palpé à la base, mais qui, sous une forme, peut être palpé.
On ne sortira pas absolument pas ça sans contexte. C'est un rapport avec la F1 au moins.
Bah non, bien sûr que non. Mais non,
oui, voyons, c'est inutile.
Non mais quand je disais ça, c'était au moins lointain quoi.
C'est un nombre de mois ?
Alors, c'est le nombre de mois dans l'année. Mais c'est pas ce qui nous concerne.
Est-ce que c'est un chiffre économique ?
Non.
Social ?
Non.
Est-ce que c'est un résultat sportif ?
Non.
C'est historique ?
C'est-à-dire ?
Une date.
C'est un chiffre lié à une date.
Non.
C'est un âge ?
Non.
Ça n'a rien à voir avec la conquête spatiale, Cindy.
Ça n'a rien à voir avec la conquête spatiale.
Très bonne question, Dino. Ouais.
C'est pas Apollo 12. Non. C'est une œuvre d'art ?
Oui.
D'accord.
C'est une automobile. Est-ce que c'est une automobile,
Cindy ? Ce n'est pas une automobile.
C'est pas la F12 Berlinetta de Ferrari, par hasard ?
Non.
Ah, dommage.
Moi, j'ai aucune idée, la 12.
Qu'est-ce que ça peut être ?
Un rapport avec l'art ?
Oui, c'est de l'art.
C'est généralement considéré comme de l'art ou c'est toi qui considères que c'est de l'art, tu
dis ? Non, c'est généralement considéré comme de l'art. C'est même un art.
Du cinéma ?
Ça concerne le cinéma.
Alors c'est 12 images par seconde ?
Les 12 salopards ?
Ça c'était pas très fluide, mais non, c'est pas les 12 salopards.
Est-ce que ça a un rapport, comme le disait Bouchard, avec un titre de film ?
Non, c'est pas dans un titre de film.
C'est un nombre de films ?
C'est un nombre de films.
Le nombre de films d'un réalisateur qui serait né ou mort aujourd'hui ?
Pas d'un réalisateur.
D'un acteur.
Oui, pas complètement, mais d'un acteur d'une certaine façon.
Jacques Brel ?
Non.
Comme ça. C'est pas vraiment acteur, mais il a fait des films. Parce que lui, on le connaît pour autre chose.
Un figurant, tu veux ?
La personne concernée, non, justement. Il est plutôt concerné par ces 12 films.
Parce que les films sont à son sujet ?
Non.
Est-ce que c'est lié à une série de films ?
Peux-tu développer série de films ?
Genre un James Bond, genre les Baby Cart ou un truc dans le genre.
Oui, ça peut être considéré dans le même genre.
Donc c'est grosso modo, c'est quelqu'un qui a tenu le même rôle 12 fois.
Oui.
Le même rôle.
C'est pas James Bond.
C'est pas James Bond.
C'est pas Zatoichi.
Non.
Ça c'est quand même la série de films la plus longue.
12 films. Et j'en vois pas, moi.
Attends. Il y a une couille là. Quand même un truc qui a eu 12
ouais.
films.
Je préciserais même que, 12, c'est associé à un acteur, mais il y a eu bien plus de films sur ce sujet.
Ah d'accord, c'est un acteur qui a joué 12 fois sur le même sujet.
Oui.
Le mec, il a fait 12 films sur le même sujet.
Plus ou moins.
C'est pas le Dracula ?
Non.
C'est autour d'un personnage célèbre comme ça ?
Oui, tout à fait.
C'est pas Christopher Lee ?
Tu pourrais même dire que, comme pour Dracula, c'est un personnage de littérature qui a été porté au cinéma.
Harry Potter ?
Non, il y en a que 8.
7.
Ils ont pas fait le 7.1, ah oui, 7.2, 7.3,
7.8. Ils ont fait 8 films, ouais. Un personnage de littérature adapté au cinéma ? 12 fois ?
C'est pas le nombre
de... C'est adapté même plus que 12 fois.
Mais il y a eu 12 fois le même comédien dedans.
Voilà.
Qui a joué le même personnage.
Oui.
C'est Maigret ?
Non.
Est-ce que c'est des films français ?
Non.
Des films américains ?
Oui.
12 films américains.
C'est un personnage américain ?
Non.
Est-ce que c'est des films d'animation ?
Non. Mais c'est un l'histoire
super héros
a aussi été portée en animation.
Oula, attends.
En fait, c'était partout, en livre, en film, en film d'animation.
J'imagine en fait, c'est Dieu, en fait.
Ouais. Mais tu as tout à fait raison, Bouchard. Il y a même eu des séries télé, des livres, des comics.
C'est pas un personnage américain, c'est un personnage français ?
Non plus.
Ah, le personnage européen ?
Japonais.
Oui, à la base européen.
Japonais ? Mais fait par des Japonais ?
Non.
C'est à la base européen, mais il est parti aux États-Unis, par exemple.
Pas aux États-Unis.
En Afrique.
Et on peut pas dire qu'il est parti.
Attends, mais c'est impossible.
Franchement, là, j'ai pas la moindre idée.
Attends, y a un mec qui a joué 12 fois le même personnage.
Oui.
Oui, mais c'est pas le seul à avoir joué le personnage en plus.
Non.
Oui, voilà.
Mais c'est
déjà, on n'arrive pas à retrouver le personnage, donc de là, parce qu'après, faut qu'on retrouve le comédien.
Oui.
Est-ce que vous voulez un indice autre que oui ou non ?
Oui, ça va nous aider.
Alors, ça a un lien avec John Carter.
Attends, John Carter, le film ou John Carter, le personnage de Urgence ?
Bonne question.
Pas le médecin.
Ah, le film.
L'acteur ? Oui.
Je n'ai même pas été voir ce film.
Comme beaucoup de monde.
C'est vrai.
Oui,
c'est-à-dire que c'est fait par le même réalisateur ?
Non.
Par les mêmes studios Disney ?
Non, mais Disney a fait l'adaptation animée de ce personnage.
Scrooge ?
Robin des Bois ?
Non.
Aladdin ?
Non.
Pocahontas ?
Non.
Les Sept Nains ?
Non.
Et un mec qui aurait joué sept doucement.
Cendrillon ?
Non.
On est sur le bonne piste, la Chine, ou pas ? Non, d'accord, ok.
Un Disney récent, par contre, je peux préciser. Relativement récent.
Ratatouille ?
Non, plus... pas en 3D.
Le Roi Lion ?
Non. Allez, je peux vous donner peut-être l'année, la date hein, du 25 mars. C'était le 25 mars 1932.
Le mec, il est mort le 25 mars. Non, il est né. Non,
le premier film, en fait, de la série est sorti le 25 mars 1932.
C'est un film maintenant qu'on cherche. Je crois que c'est un mec.
Ne dis pas que c'est Fantasia. Ah,
si tu trouves le mec, tu trouves le film et vice-versa.
D'accord, le mec, il est bien, quand même bien associé au film.
Ouais, non.
C'est un 32 de Disney, c'est...
Ah non, le Disney ne date pas de 32.
Charlie Chaplin ?
Non, le Disney, il date de 99.
Merde, c'est quoi quel Disney qui est sorti en 99 ?
Est-ce qu'on a le droit à l'appel à un petit neveu ou une petite nièce, par hasard ?
L'appel à un ami.
Google.
Est-ce que vous voulez le nom de l'auteur original du personnage ?
Ouais, vas-y.
Ah, vas-y, ouais.
Edgar Rice Burroughs.
C'est là où on passe pour des cons, tu vois. Parce qu'on sait pas du tout qui c'est, mec. Un Dalmatien ?
Non.
Ah, oh, Disney sorti en 99. La Belle et la Bête ?
Non, c'est plutôt ça. C'est en 99.
Alors, je peux
99,
dire...
j'avais 15 ans.
Je peux aussi vous dire que lors du premier film, hein, en 32, c'est l'apparition d'un personnage secondaire connu qui est un animal.
Inspecteur Gadget ?
Et cet animal était un chimpanzé.
Tarzan !
C'est Tarzan.
Ah la vache, t'as pris un quart d'heure. Je suis même pas heureux de ma victoire, tu vois.
Voilà, non.
Tarzan.
Elle a été épuisante.
De l'auteur Edgar Rice Burroughs, qui a été adapté par Disney en 99. C'est pour ça. Il y a des comics, il y a des films, il y a des bandes dessinées, il y a des séries télé de Tarzan. Et donc en 1932, c'était la sortie aux États-Unis du premier film de Tarzan avec Johnny Westmuller.
Oui.
Ah, oui.
Et Johnny Westmuller a incarné 12 fois le personnage de Tarzan. Alors, ce film marque, donc, comme je vous ai donné en indice, hein, l'apparition aussi de Cheetah, qui n'existe pas dans le roman et qui a été créé pour le film. C'est aussi l'apparition du fameux cri de Tarzan.
Oh, yo, 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 yo.
Exactement, qui a été créé par l'ingénieur du son Douglas Shearer. Et en fait, il a inversé un yodel autrichien.
Ah, alors après,
il a dit que c'était lui qui l'avait créé et tout, mais en fait non. Mais les gens le croyaient parce qu'il avait appris en fait à reproduire ce que Dino nous a magnifiquement fait.
Oh yo 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 yo.
J'ai précisé que c'est du live.
Voilà. Donc il y a eu des films avant 1932 qui étaient muets, donc ils pouvaient pas faire son cri. Donc 32 c'est le
premier. Ça devait pas être terrible Tarzan à l'époque.
C'est Tarzan l'homme singe, hein, The Ape Man, et donc il en a fait 12 jusqu'en 1948. Hein, donc il y a Tarzan et sa compagne, Tarzan s'évade, Tarzan trouve un fils. Tarzan, le trésor de Tarzan, les aventures de Tarzan à New York, le mystère de Tarzan, le triomphe de Tarzan, Tarzan et les Amazones, Tarzan et la femme léopard, Tarzan et la chasseresse, Tarzan et les sirènes et bien sûr Tarzan chez les ch'tis.
Et après il y a eu Tarzan chez la cuisine.
Attends, il y a eu Tarzan chez les ch'tis.
Non. Super. Il me croit ce con.
Oh 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 oh. Passion, j'ai gagné aujourd'hui, je suis dit, donc tu te calmes.
Westmuller qui avant d'être donc il a fait d'autres films, mais c'est le rôle que tout le monde associe, hein. Il est marqué par ce rôle pour l'éternité, je dirais. Mais faut pas oublier que ce fut un très grand nageur.
Ouais.
Qui a gagné 5 médailles d'or aux Jeux Olympiques.
Ah ouais.
En nage libre, il en a gagné 3 médailles d'or en 1924, une médaille de bronze en 1924 et 2 médailles d'or en 1928, 52 titres de champion des États-Unis, et il a établi au cours de sa carrière 28 records du monde. Qu'il a plus ou moins battu, hein. Son record du monde de 1927 de 100 yards, pas 100 mètres, hein, 100 yards, a tenu pendant 17 ans. Et
après, on a arrêté d'utiliser les yards, ce qui fait que son record, il a tenu 17 ans.
Voilà.
C'est là qu'il tiendra encore, sinon.
Ah oui, c'est vrai. Non,
non. Il avait une particularité, c'est qu'il nageait le crawl avec la tête hors de l'eau, ce qui n'est plus du tout utilisé. Donc très grand champion, et bon, on va peut-être pas dire grand acteur, mais en tout cas, a jamais associé au personnage de Tarzan. Et donc le lien, c'est qu'en effet, John Carter est aussi un roman à l'origine de Edgar Rice Burroughs. Mais il y aura sans doute beaucoup moins de films sur John Carter que de films sur Tarzan.
Ah, ça c'est clair.
Parce que Disney a annoncé qu'ils allaient perdre 200 millions de dollars. Donc à noter, alors, en 1932, il n'y avait pas encore de F1, bien évidemment. Mais deux dates associées au Brésil. Une qui a quand même un bel écho aujourd'hui. c'est le Grand Prix du Brésil 1984, qui était le premier Grand Prix de la saison. Et devinez qui a débuté lors de ce Grand Prix.
Ayrton Senna.
C'est exactement le premier Grand Prix d'Ayrton Senna. C'était aussi la première victoire pour le moteur TAG Porsche. Premier d'une longue victoire. Et à noter aussi donc le Grand Prix du Brésil 1990. Bon, au niveau des résultats, rien de forcément particulier, mais il faut savoir que c'était le retour à Interlagos après 10 ans d'absence, dans une version complètement modifiée. Parce que l'ancienne version était tout aussi sinueuse, mais faisait je ne sais combien de kilomètres.
Super sinueuse. Là, à côté, le circuit d'Interlagos actuel, c'est un ovale. Voilà.
Donc voilà, c'était tout pour cet éphéméride. Donc sur ce, Dino, on va rendre hommage à notre invité.
Oui, puisque c'est l'heure de gloire de l'invité.
Le service après-vente de la F1 vous présente l'heure de gloire de l'invité.
Alors, bonsoir, Bûcheur.
Oui, bonsoir.
Comme tu le sais, c'est ton heure de gloire.
Ah.
Nous allons te poser des questions, à commencer par le pour ou pas pour, auxquelles tu n'auras le droit de répondre que par pour ou pas pour. Avec des questions en tout genre.
Oui.
Mais promis, nous ne te demanderons pas si tu es pour ou pas pour le yaourt. La trouver mieux. Et après, donc, tu pourras revenir sur trois des sujets que tu voudras, puis on te posera des petites questions, et voilà, ça nous permettra de découvrir ton regard perçant, vif sur l'actu.
Oh.
Alors,
oui.
On commence, es-tu prêt?
Pour.
Il est au taquet.
Alors, Bûcheur, pour ou pas pour Alain Prost?
Pour.
Pour ou pas pour l'alternance du Grand Prix d'Australie?
Pas pour.
Pour ou pas pour la confirmation du Grand Prix de Corée?
Pas pour.
Pour ou pas pour le casque d'Eki Kovalainen?
Pour.
Pour ou pas pour le F-Duct de Mercedes?
Pour.
Pour ou pas pour le Hungaroring?
Pas pour.
Je quitte cette émission.
Ouais. Victoire.
Pour ou pas pour les accords Concorde?
C'est vague.
Elle est dans leur nouvelle version.
Pour.
Ouais. T'es un pro Ferrari, un pro Red Bull. Ah, pas bien. Pour ou pas pour les nez d'ornithorynque?
Ou pas pour.
Pour ou pas pour les slips kangourous?
Pour.
Ah, intéressant. C'est Fab qui va être content. Pour ou pas pour le Grand Prix de Malaisie qui se court de nuit?
Pas pour.
Eh ben voilà, bravo.
Merci. J'ai gagné quoi?
Rien. T'as gagné le droit de revenir sur les trois pour ou pas pour de ton choix.
Déjà, j'ai commencé par les accords Concorde.
Donc tu étais pour.
Ouais, j'ai dit pour. Je suis pour qu'il y ait en général des accords Concorde. Il faut bien que régir le... Mais alors, toute la polémique dernièrement sur la signature des nouveaux accords Concorde, je ne suis pas du tout pour. Pour moi, c'est toutes les équipes qui devraient signer d'un bloc les mêmes accords et qu'il n'y ait pas des signatures individuelles avec négociation individuelle par équipe des accords. Je trouve ça minable. Voilà.
Alors, tu as le choix pour revenir sur un deuxième pour ou pas pour?
Le vite fait, c'est le Hungaroring, c'était juste pour t'embêter.
Ah, tu l'aimes quand même.
Ben en fait, j'ai pas vraiment d'avis sur ce Grand Prix.
Ah, moi, les gens qui ont pas d'avis, tu vois, dans ce cas-là, j'aime bien.
Je suis ni pour ni contre, donc.
T'es ni pas pour ni pour.
Je suis ni pas pour, voilà.
Et donc, le troisième pour ou pas pour?
Qu'est-ce qu'il y avait?
Alain Prost, l'alternance du Grand Prix d'Australie, la confirmation du Grand Prix de Corée, le casque d'Eki Kovalainen, le F-Duck de Mercedes, le nez d'ornithorynque, le slip kangourou et le Grand Prix de Malaisie qui se court de nuit.
Ben, pour rester dans ce qui passe, pour rester dans l'actu d'aujourd'hui, ben, le Grand Prix de Malaisie de nuit, non, parce que j'aime bien. Alors, j'aime assez bien la version actuelle, parce que franchement, c'est nickel, quoi. On se lève le matin, 9-10 heures, suivant s'il y a des changements d'heure ou pas. C'est nickel pour le Grand Prix, je trouve. Tu bois le café devant ton Grand Prix. Et Malaisie, surtout, de nuit, non, parce que souvent, il pleut. La nuit, plus la pluie, ça risque de faire beaucoup. Voilà. Donc, autant au circuit qu'on sait qu'il y a peu de risque de pluie comme Singapour, très bien. Autant un circuit comme la Malaisie où il y a le très fort risque de pluie, en plus tropical où c'est des trombes d'eau, autant ne pas rajouter la course de nuit qui complique la chose, quoi.
Bah, c'est bien, ça. Oui. Alors maintenant, Bûcheur.
Oui.
Nous avons des questions beaucoup plus intelligentes à te poser, bien sûr. Et la première, qui vraiment place la barre très très haut, tu vas voir, après ça va un petit peu descendre au niveau de l'intelligence. Il s'agit de savoir l'actu des dernières semaines dont tu n'as rien eu à foutre.
Alors, déjà, par définition, les actus dont je n'ai rien eu à foutre, je suis pas au courant.
Oui.
Ouais, non, si, un truc qui m'a... J'ai vu les titres, mais j'ai pas du tout lu. C'est l'histoire du F-Duct de la Mercedes. Ils ont trouvé une astuce qui s'actionne, qui se met en marche quand le DRS est activé. Je trouve ça intelligent. Faut que les autres équipes arrêtent de se plaindre, notamment Red Bull apparemment. Et voilà quoi.
C'est très rigolo pour Red Bull de se plaindre alors que.
Là, voilà, ça serait hypocrite. Je veux dire, Mercedes a trouvé une astuce qui. Alors c'est sûr que c'est d'autant plus flagrant sur les Mercedes qui ont toujours été rapides en ligne droite. Voilà, c'est le jeu. Ils ont trouvé une bonne idée. La FIA a approuvé. Ils ont dit, en gros, ils ont fait une interprétation intelligente du règlement. Et puis voilà quoi.
Mais c'est ça le truc. C'est là où vraiment la solution de Mercedes est super intelligente. C'est qu'ils exploitent une faille du règlement, qui est pas une petite, mais qui est une énorme faille. Ce qu'est le DRS. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux pas reprocher à une écurie d'exploiter un élément mobile qui est le seul autorisé. C'est-à-dire que même dans le règlement, ils te disent, c'est la seule exception.
Exception. C'est le DRS. Bah ouais.
Ils ont réussi à l'utiliser super intelligemment. Est-ce que ça se fait dans l'esprit du règlement? Non. Bien sûr, mais déjà le règlement lui-même se fait pas dans l'esprit du règlement.
Oui. Ouais, non, mais c'est ça, c'est avec une idée comme ça qu'on retrouve le Ross Brown qu'on connaissait quoi.
Ouais. Alors maintenant, quelle est l'actu que tu aimerais lire dans les prochaines semaines? Peut-être demain et enfin lundi et mardi et que tout le monde aura lu, mais que nous ne traiterons pas.
Alors franchement, ça m'a tellement saoulé durant le Grand Prix que j'aimerais en lire Grosjean finit enfin un Grand Prix.
Peut-être ça... deux semaines.
Bon, ça t'aimerais le lire.
J'aimerais le lire. Par contre, je suis pas sûr de le lire dans deux ou trois semaines.
Et inversement, quelle est l'actu que tu n'aimerais pas lire dans les prochaines semaines?
Que Ferrari dégage Massa pour prendre un autre pilote.
Mais qui donc?
Non, mais c'est quel que soit le pilote par qui le remplacerait, je m'en fiche. Autant je suis pas fan, je suis loin d'être un fan de Massa, autant je trouverais injuste de le dégager s'en séparer si tôt dans la saison.
D'ailleurs, de toute façon, les déclarations de Ferrari vont pas dans ce sens-là. Hein. C'est le paddock qui s'excite un petit peu. Mais Ferrari, ils ont dit, de toute façon, Massa, même si on peut peut-être lui reprocher des choses, mais Massa, on lui donne pas la voiture pour qu'il puisse performer. Donc on va déjà pas lui reprocher de pas performer. On tient pas notre part du marché. Donc,
oui, mais attends,
le malheur de Massa, c'est qu'on peut. Il est peut-être au niveau réel de la voiture, c'est à cause de son coéquipier.
Ouais, oui. Non, mais après, Dino, tu peux pas prendre ce que dit une écurie de F1 et Ferrari. Pas forcément plus que les autres, mais je veux dire, c'est le genre de trucs qui te font la déclaration le
je
mardi.
Je suis bien d'accord.
Tu dégages.
D'accord, mais c'est pour ça que je relais la voix officielle. Maintenant, oui. Voilà, il y a des rumeurs derrière, mais qui ne sont que des rumeurs. Donc pour moi, on est rumeur contre parole officielle. Voilà, même Massa dit, pour moi, ça me passe au-dessus de la tête. Après, c'est une question d'intérêt. Moi, sincèrement, je pense que s'ils doivent virer Massa, ils le vireront après le Grand Prix de Bahreïn, s'il a lieu. Parce que juste derrière, il y a les essais du Mugello qui permettront au potentiel successeur de Massa de prendre le volant de la F2012B.
Ouais.
Avant, ça lui laisse de chance,
parce que ce qui serait énorme, c'est que aux essais du Mugello, ce soit un autre pilote que Massa qui fasse ses essais et qu'il n'y ait rien d'officiel.
Oui.
À ce moment-là. Bon, non, je pense que Ferrari, moi, il s'embarrasse pas de ça, Ferrari.
Bon, à la limite, il met une voiture, c'est tout. Coûtera moins cher. Je sais pas si t'as le droit de le faire, ça.
Je crois pas qu'il y ait une obligation d'aligner deux voitures. Hein.
Mais je sais pas. C'est une belle question.
Tu dois avoir deux maximum, mais tu dois pas avoir deux minimum.
Faudra regarder.
Ce serait intéressant.
Il y a peut-être un vide dans le règlement.
J'ai dit, je crois que je vais envoyer un mail au répondeur du SAV. Alors je me rappelle l'adresse. Alors c'est répondeur@savf1.fr. Et enfin, pour finir.
Oui.
Quel serait ton drive-through?
Alors, j'en ai deux. J'en ai deux qui m'ont fait bouillir devant la télé ce matin. Il y a le réalisateur, pour pas changer, c'est...
Ouais,
c'est... Donc, réalisateur qui forcément filmait toujours les trucs où il se passait pas grand chose, alors qu'il savait pertinemment qu'il y avait des endroits où il y avait des pilotes qui se bataillaient pour une place. Donc forcément, alors ça s'est amélioré sur la deuxième moitié du Grand Prix, mais... La première moitié, c'est quand même catastrophique. Et le deuxième truc qui m'a fait bouillir, c'est forcément On sort tout de suite la voiture de sécurité. Dès qu'il pleut.
Ça, là, tu vois, ce drapeau, je me suis dit, je vais même pas l'envisager. Ça va être précis.
Il va sortir.
Il est obligé qu'il sorte.
Il était facile, je le prends, il n'y a pas de souci.
Mais voilà. C'est une spécialité malaisienne, de toute façon.
C'est Afia, c'est toujours Charlie Whiting. Je veux dire, il est sur toutes les courses, mais je sais pas, qui creuse des rigoles, quoi, sur ce circuit, j'en sais rien.
Mais dans les cas extrêmes.
Ouais. Non, mais dans les cas extrêmes, je peux le comprendre, en Malaisie, il peut vraiment tomber beaucoup.
On peut comprendre le drapeau rouge quand vraiment, c'est pas possible. Oui. Ça, c'est normal. Mais faire tourner les voitures derrière la safety car, mais pourquoi? Pourquoi?
Tu les arrêtes ou tu laisses continuer, quoi.
Voilà, tout à fait.
D'où l'idée qui a été avancée notamment pendant la course d'avoir une voiture plus rapide.
Mais apparemment, il disait que la FIA était en train d'y réfléchir.
Oui, et je crois que alors c'est pas Froissart qui a avancé l'idée.
C'est Froissart dans Dimanche F1 qui est pas idiote.
Il a dit on a qu'à mettre une biplace, une F1 biplace, ça sera
non.
Le reste.
Non, mais parce que je pense qu'il est. Non, je pense qu'il est. Déjà, il faut une voiture fermée. Pour que déjà les deux personnes, le pilote et le copilote puissent discuter, parler entre eux.
Ouais, sachant qu'en plus ils ont une caméra à l'arrière, je crois, avec un écran. Ils ont des choses sur leur tableau de bord. Il n'y a pas.
Ouais. Et je pense qu'ils doivent avoir un peu de matériel, peut-être premier secours, un truc comme ça au cas où, j'imagine. Donc tu peux pas avoir une monoplace. Et puis une monoplace, t'imagines qu'il n'y a pas forcément une capacité de carburant, des problèmes de fiabilité. Voilà quoi. C'est.
Mais en plus, il y avait un truc qui était aussi bien expliqué par Froissart, c'est le fait que comme on a commencé à introduire ce fait un peu à l'américaine, dès qu'il commence à pleuvoir, de geler la course. Du coup, les écuries qui savent très bien que lorsqu'il y aura trop de pluie, on leur demandera plus de rouler sur la piste, se mettent à concevoir des voitures qui ne peuvent plus, qui sont plus adaptées à la piste sèche qu'à une piste pluvieuse. Comme les voitures sont de moins en moins préparées pour aller sous la pluie, et bah, du coup, ça justifie de plus en plus de sortir les safety cars.
C'est un cercle vicieux.
Voilà. D'ailleurs, pas une seule fois du week-end, on a évoqué ne serait-ce que des raies de lâche-pluie sur les voitures.
Oui.
Ah, Malaisie, ce qui est énorme.
Alors que, voilà.
Je veux dire, ça aurait pas été étonnant, par exemple, quand on voit les qualifs, de dire, ah, Vettel, il a peut-être mis des réglages pluie, des trucs qu'on entendait très couramment avant, là, rien.
Surtout qu'il y a que Christian Horner.
Oui, j'allais le dire.
Il y a que lui qui a pas vu venir la pluie. Je veux dire que, même pendant la course, j'ai dit, non, mais les mecs, il pleut pas, là. Non, mais bon, il pleut pas, les gars.
Ah, j'ai adoré la réflexion de Moncé. Qui disait que, ouais, effectivement, Horner a dit le vendredi que de toute façon, il n'y aurait pas de pluie durant tout le week-end. Et Mossé qui disait il peut changer de consultant météo.
Oui. En même temps, après, il a cité Météo France qui n'a pas toujours été irréprochable dans ce domaine-là. Ça dépend des jours. Quoi.
Voilà.
Un jour, c'est fiable, un jour, c'est pas fiable. Archidu, tu veux garder ton drive-thru pour la fin ou...
J'avais deux petits drive-thru, dont un dont vous avez parlé, c'était pour Christian Horner par rapport au F-Duct. Parce que voilà, c'est un peu se foutre de la gueule du monde. Surtout venant de Horner. Puis bon, voilà, on peut même dire, non, elle a été vérifiée deux fois, cette voiture. Parce que c'est pas une seule fois que la FIA a dit que c'était OK, c'est mais deux fois. En espérant qu'en courte saison, hein, parce qu'on ne sait jamais avec la FIA.
Oui, on verra.
Bon, oui, ouais, ça.
C'est pas parti pour qu'ils disent, tiens, faut freiner les McLaren, les Mercedes.
Les Mercedes.
Non. Les McLaren, oui, mais les Mercedes, non.
Puis un deuxième qui pour TF1 encore une fois, voilà, n'a pas eu de podium parce que bien évidemment c'était trop compliqué de reculer le journal de 3 minutes.
Ah ça, j'étais vraiment déçu, je voulais le voir le podium
parce que c'était tellement mieux de passer de la pub pour voir le podium et
fallait avoir
du nez. Il fallait passer directement sur Eurosport où ils ont calé Dimanche F1 juste à la suite et où il y a eu le podium.
Oui d'ailleurs.
Il y avait Dimanche F1 juste après le Grand Prix.
Oui. Ouais.
Mais merde.
C'était déjà prévu après le Grand Prix hein, puisque l'heure prévue c'était 11h45 et j'en profite pour faire j'improvise un mini drive-thru comme ça s'est fait. Ça serait bien qu'ils fixent un horaire stable. ou alors qu'ils nous disent à chaque fois, on fera Dimanche F1 après la course. Mais voilà, là du coup, effectivement, moi j'ai eu la chance de pouvoir le reprendre parce que grâce au player Eurosport, on peut remonter dans le temps. Hein, on peut faire du catch-up, donc ça c'est assez pratique. Mais j'étais quand même arrivé à moitié d'émission, quoi. Je fais, ah merde.
Je te jure, moi j'ai mis Eurosport, mais au bol. Hein. Je fais ah tiens, il est animé chez FIFA. Cool, c'est en direct, on va voir le podium.
En plus, ça leur dure pas, c'était bien.
Ouais, c'était bien, et ça a changé.
On peut manger poulet frites en regardant Dimanche chez FIFA. Oh.
Sinon, Dino, t'avais prévu autre chose auparavant?
Ah, bah, moi, j'ai un drive-thru, mais.
Ah, mais tu le gardes?
Mais, non, je vais faire tout de suite, j'ai dit. Je voudrais mettre un drive-thru à Sébastien Vettel. Eh oui, c'est le jour des contrastes. je voudrais mettre un drive-thru à Sébastien Vettel parce que dans ses déclarations d'après-course, Sébastien Vettel, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, mais j'accuserai plein de monde derrière, mais je vais commencer par taper sur Vettel.
Vas-y.
Sébastien Vettel est revenu sur l'incident de course qu'il a opposé à la HRT pendant la course, en disant qu'il faudrait mieux que certains regardent là où ils vont. Personnellement, quand on regarde, et il a très bien expliqué Carty Kayan, qui a été impliqué à la fois dans l'incident de Vettel et de Button. Button, eh bien, il le dit, voilà, je l'ai pas vu de derrière, j'ai pas pu l'ouvrir à la porte parce qu'il est arrivé derrière. Button est allé s'excuser, et en fait, c'est Carty Kayan qui s'est excusé, c'est moi qui me suis pas décalé, je t'avais pas vu, voilà, je suis désolé. Et derrière, t'as Vettel, qui l'a pas forcément joué très gentleman, alors qu'il est complètement en tort. C'est-à-dire que, très bien qu'il pleut, tu te rabats pas comme ça aussi précipitamment, c'est extrêmement présomptueux de te rabattre aussi précipitamment devant alors que tu sais très bien que t'es au début de la ligne droite, tu continues sur la trajectoire, surtout qu'en plus, il a pas de raison de se rabattre à cet endroit-là, puisque la trajectoire, elle va vers la droite, donc il y avait aucune raison qu'il se rabatte à cet endroit-là. Et derrière, dans son communiqué, il continue de dire, voilà, c'est de la faute de la HRT. Et puis, globalement, je voudrais aussi mettre un drive-through par le biais de Vettel à tous les gens qui ont commenté sur le site de FanF1 et qui s'en sont pris à HRT. Je trouve que c'est quand même un tout petit peu facile de s'en prendre à HRT parce que elles ont eu un accident, il y en a une qui a eu un accident avec deux champions du monde. Voilà, c'est pas possible de systématiquement s'en prendre aux petits. Et ça peut aussi s'appliquer, on va pas non plus taper que sur les fans, ça va aussi s'appliquer à la FIA, qui a sanctionné de façon 20 secondes, de façon totalement injustifiée, et qui permet aussi de conforter des équipes comme Red Bull, comme McLaren, comme Ferrari, comme Lotus, comme Mercedes, dans l'idée que les petites équipes, faut qu'elles se poussent, faut qu'elles dégagent, c'est elles les reines, elles doivent passer, et les autres, elles ont pas le droit d'exister. Moi, ce qui m'embête vraiment dans cette histoire-là, c'est que cette notion du fait que les HRT ne devraient pas exister. Elles ont le budget, elles sont conformes au règlement, elles sont présentes, elles se qualifient, elles respectent, elles essayent de se défoncer, elles ont leur place en Formule 1.
Au lieu, justement, elles galèrent pour être en Formule 1, pour respecter tout le règlement, pour essayer d'être au niveau compétitif, alors quand tout le monde sait que ça demande des installations, beaucoup d'investissement et tout ça. Et au lieu d'essayer de leur faciliter un peu les choses, de les aider, on les enfonce derrière, quoi. Je trouve ça, c'est comme quelqu'un qui a du mal à nager dans une piscine qui arrive à peine à flotter, et au lieu de lui tendre la main, on lui enfonce la tête sous l'eau.
Puis c'est aussi oublier que historiquement, il y a toujours eu des petites structures qui se sont battues en fond de peloton, sans d'autre espoir que d'essayer de briller un tout petit peu. Et voilà. Et je trouve que c'est vraiment dommage d'avoir ce discours qui dit, la F1, c'est avant tout les top teams. Non, il faut aussi accepter que la F1, il y a des petites équipes et qu'il faut leur laisser la place.
Je suis entièrement d'accord avec toi. Je plus sois ton coup de ton drive through.
Ah, merci Bichard. J'espère que tu plus soiras mon top 10.
Non.
Non, je ne peux pas.
Non. Une partie peut-être, mais il y a une petite partie de ton top 10, je ne pourrai jamais le plus soyer.
Allez messieurs, on va passer au week-end.
Cette émission est truquée.
Messieurs, on va commencer par les qualifs. Et donc malheureusement à la place du con, eh bien c'est un Français, c'est Jean-Éric Vergne.
Oui.
Pas passé la Q1.
J'ai du mal à comprendre, c'est comment la Toro Rosso a galéré à passer en Q2, quoi.
Bon, après quand on voit Ricciardo aussi, c'était short, hein, donc.
Parce que même après sur la Q2, Ricciardo ne se place que 15. Hein.
Ouais, il brille pas, quoi.
Non, il brille pas.
En tout cas en qualif.
Oui.
Mais c'est un peu le propre de la Toro Rosso, hein. En qualif, déjà l'an dernier, ils étaient pas très bons, hein. Enfin, c'était très souvent le Garcia qui était les places du con, avec Kobayashi parfois. Donc là, cette année, ça arrivait beaucoup, les Toro Rosso.
Oui. Les Sauber ont l'air un peu mieux en
oui,
forme que les.
Bien.
Et les Williams aussi, donc.
Les voilà. Oui, ouais.
Ah, heureusement, on peut compter sur Massa.
Oui.
C'est vrai que les Williams ont fait 11 et 13. Et Raikkonen. Et qu'elles entourent.
Il n'y a pas de raison comptable que sur Massa. On peut aussi compter sur Raikkonen pour être place du coup.
Non.
Il a été, Gigi.
Ah, oui, bon, d'accord. Il a été.
Son premier Grand Prix. Bon, ça va.
Voilà. Moi, tout ce que j'espère, c'est qu'il fasse enfin une qualif normale, sans pénalité, sans problème, rien. Donc, Massa, en effet.
Si son coéquipier pouvait finir le Grand Prix aussi.
S'il pouvait finir le troisième tour, ce serait déjà bien.
Non, déjà qu'il passe le cinquième tour, parce que là, ce matin, il a abandonné au quatrième tour, Grosjean.
Oui. Ouais. Donc, Massa qui fait 12, j'ai presque envie de dire, c'est un bon résultat.
Ouais.
Massa.
Ouais.
Massa qui a changé de châssis.
De châssis.
Et qui avait pas trouvé l'équilibre vendredi et samedi matin, et l'a trouvé en qualif. Voilà. Il a quand même passé les pneus tendres très vite. Donc.
Il a dû le reperdre entre les qualifs et la course, l'équilibre. Hein.
Oui.
Ouais.
Ça s'en va et ça revient.
C'est fait de tout petit rien.
C'est une chanson populaire.
Et donc en Q3, déjà on aurait dû se douter du truc. Perez en 10.
Oui.
Alonso en 9.
Oui. En 9, oui. Alonso, franchement, à un moment, j'ai cru qu'il allait même pas sortir de la Q3. Hein. Il est resté un temps pas croyable dans son stand. Il a fait sur un tour.
Il fait comme une petite équipe.
Hein. Mais... Non, mais arrête.
Il fait comme Schumacher l'an dernier. Quoi.
Ils ont sorti les, alors pas les tendres, mais les médiums dès la Q1.
Oui.
Le truc que font les petites équipes.
Et moi, j'étais là, ouais, cool, ils vont pas passer en Q3. Rien pour faire râler Dino. Ouais.
Bah, voilà. Non, aujourd'hui, tu vois, je serai seigneur. On en reparlera dans une demi-heure.
Bon, Rosberg fait 8, mais on s'en fout parce qu'on le voit pas depuis le début de la saison.
Comme la saison dernière.
Mais la différence, c'est que l'an dernier, on le voyait pas, il faisait des trucs moyens. Voilà.
Ouais.
Là, voilà. Depuis le début de saison, on le voit pas et il est merdique depuis des courses.
C'est vrai. Alors que Schumacher brille.
Grosjean 7, c'était presque décevant, tu vois. 7ème place pour la Lotus.
Il est dans le top 8.
Il visait la 3ème ligne, même la 2ème.
Bah, il est au port de la 3ème ligne, Shinji.
Ah ben il y est pas.
Attends, non mais c'est pareil, c'est que il y a aussi un truc qu'on oublie sur Grosjean, c'est que Grosjean aujourd'hui avec Weber, c'est le seul qui joue le top 8 face à 6 champions du monde.
C'est vrai.
Voilà. C'est ça aussi qui explique par exemple son accrochage. Enfin, je pense pas qu'on va.
J'avais pas percuté, c'est vrai.
Voilà, non, mais c'est un débutant parce qu'il a quand même que maintenant il a que 9 grands prix dans les pattes. C'est un débutant qui se retrouve sur les grilles de départ à côté soit de Raikkonen, enfin pas en ce moment, mais il va pas tarder. Et à côté de Schumacher, la dernière fois il était derrière Button et Hamilton, à côté de Schumacher, devant il y avait qui derrière ? Il y avait Weber et Vettel. Donc le mec il est super bien entouré. Et c'est un débutant qui a que 8 grands prix. Après, on s'étonne qu'il se cartonne au 3ème virage quand il est à côté de lui Schumacher. Et il se dit, oh mon dieu, j'ai Schumacher à côté de moi. Mais on serait pareil, quoi. On se dirait, on serait tout petit, quoi. C'est, voilà, faut que je me range. Et c'est vrai que c'est le truc de, je trouve, de Grosjean, c'est qu'on a l'impression qu'il a un peu peur des gros. Il serait peut-être mieux dans le milieu. Et peut-être qu'il a tiré un enseignement du fameux carton qu'il a fait à Spa.
Pour son premier Grand Prix,
ouais. Où il fait un beau carton à Spa avec Hamilton dedans et par Raikkonen. Pas Raikkonen s'il avait gagné ce week-end-là.
Strike man.
Voilà, un superbe strike. Et peut-être que maintenant, il se dit, il a trop pris la leçon. Et en même temps, il est entouré que de champions du monde et de Weber qui a quand même roulé sa bosse, qui a quand même prétendu au titre. Et il se dit, voilà, bon alors là, je suis à côté, c'est un nain à côté de géant, quoi. Et donc, tu l'imagines en train de dire, oh mon dieu, c'est Schumacher. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il est peut-être un petit peu trop respectueux envers ceux avec qui il se bat.
En 6, Vettel. Eh oui, Vettel en 6ème place, ça arrive.
En dur.
Oui.
C'est un truc que j'ai noté, c'est pas mal ce qu'il a fait là.
Enfin, en médium.
En dur. Il était qu'à 4ème justement de la pole qui a été faite en médium.
Ouais. Parce qu'ils espéraient qu'il pleuve pas.
C'est pour ça qu'il est.
Non, alors. Alors non, en fait, j'ai lu quand même que c'était pas du, il disait c'est pas du tout une stratégie, c'est qu'il arrive tellement pas à bien gérer les, et à sentir les, avoir le feeling avec les médiums, qu'il a préféré faire le tour en dur. Et il disait, de toute façon, les médiums, j'aurais gagné quoi? 1/2 dixième à tout casser.
Mais c'est ce dont Pirelli est très content. Et ça, que là-dessus, on peut leur donner, c'est qu'ils ont resserré la gamme. Et donc, du coup, bah, ça fait des pneus qu'il y a plusieurs options qui sont à choisir. On l'a vu en fin de course et on l'a vu en qualif avec Vettel.
Ouais, oui, c'est là où c'est le pneu, quand le choix sur la course entre le pneu dur et le pneu tendre disponible, c'est que l'écart n'étant plus aussi important qu'avant, le choix du tendre ne s'impose pas.
Voilà. Ouais. Parce que l'an dernier, on avait quand même l'impression qu'il fuyait les durs, alors que là, aujourd'hui, il les fuit plus, quoi.
Non. Mais c'est clair qu'il les fuyait. Il devait régler absolument la voiture pour obtenir un meilleur de performance. C'était avec les tendres. Donc, il misait tout sur ça. Et après, derrière, forcément, on le voyait notamment avec Ferrari, qui galérait en course avec les durs.
Avec les durs, ouais.
Alors qu'ils étaient bons, mais ils étaient pas si mauvais que ça en qualif.
Sinon, Kimi fait 5. Bon, il a eu ses 5 places de pénalité, mais
Il
fait 5.
Qui est une bonne performance quand même, pour faut pas oublier que pour 2 ans sans F1,
voilà, c'est ça.
Franchement, il me surprend. Et il y a Grosjean qui est pas loin de lui, quoi.
Là, pour l'instant, il confirme son bon retour.
Ouais.
En quatrième place, Mark Webber.
Qui est encore dominé Vettel.
Voilà, quand il n'a pas de soucis, il arrive à être devant Vettel.
2 fois d'affilée.
Là, c'est bon. Il n'a pas eu de problème de cœur cette semaine, non?
Non.
C'est bon. Et donc, sur le podium de la qualif, Michael
Schumacher.
Donc, je l'avais dit la semaine dernière, mais de nouveau, voilà, c'est son meilleur classement depuis son retour.
Vivement Bahreïn.
Plus. Oui.
C'est théoriquement en Chine, il est deuxième, et à Bahreïn, il est en pôle.
J'aimerais voir ça.
Arrête.
Non, c'est pas mal pour un quadra. Hein.
C'est une super qualif. Hein.
Oui.
Ouais, ouais.
Mais il n'y a pas de souci lors des qualifs pour Mercedes.
Non, mais en plus, là, c'est vraiment sur un circuit. Parce que bon, il fait quatrième en Australie. Mais bon, le circuit n'est pas non plus le plus exigeant de la saison. Là, c'est comme un circuit qui est un vrai test pour les pilotes, un vrai test physique. Et là, troisième à 43 ans, c'est dommage qu'il puisse pas concrétiser en course, parce qu'on aurait bien voulu voir en course ce que ça pouvait donner.
Moi, ce qui me fait halluciner, alors, c'est ce qui met une valise à Rosberg sur ce coup-là.
Pour l'instant, sur les deux premiers Grands Prix...
Non, mais sur ce qualif-là, c'est Rosberg 8e, Schumacher 3e,
En course, il finit, il a l'accident avec Grosjean au départ, il revient à la fin. Et il finit devant Rosberg. Mais il finit bien devant Rosberg. Je crois que Schumacher va être 11e et Rosberg, il est 15 ou 16.
Ouais, je sais pas si c'est
passé. Il est 13. Il est 13, Rosberg.
Est-ce que c'est peut-être le fait que la Mercedes souffrant tellement des pneus, aujourd'hui, Schumacher arrive peut-être mieux à gérer ça, enfin, parce que son expérience, etc.
Attends, il a tout vécu avec les pneus.
Oui, voilà, non.
La question que je me pose, c'est est-ce que c'est Schumacher qui est en excellente forme, ou est-ce que c'est Rosberg qui est vraiment en méforme en ce moment?
Étonnamment, on a quand même l'impression que la Mercedes elle tourne bien.
Oui. C'est pour ça que les mauvaises, j'ai envie de dire les contre-performances de Rosberg me surprennent un peu.
Oui, quand même, on pourrait s'attendre à ce que ce soit un petit peu mieux Rosberg.
Même moi qui l'an dernier disait à Schumacher faut relativiser ses performances parce que peut-être que Rosberg aussi il est un peu démoralisé, qu'il a baissé le rythme en fin de saison. Là, force est de constater que effectivement il a une bonne voiture comme à sa disposition sur les qualifs et que même en qualif. Il n'arrive plus à dominer Schumacher qu'il dominait pourtant. Je crois que ça fait deux fois que Schumacher... ça fait deux fois que Schumacher le bat en qualif. Ça doit être la première fois que Schumacher le bat deux fois en qualif depuis son retour. Donc, faudra vérifier, mais ça ne doit pas être très loin. Donc tu te dis, là, cette année, il n'a pas l'excuse de dire « je suis démoralisé ». Donc, est-ce que c'est vraiment parce que Schumacher est meilleur?
La question est légitime. Hein. Bon, après, c'est peut-être un peu tôt pour commencer à faire un bilan, mais d'après les premières constatations...
On verra en Chine, parce qu'en Chine, c'est un circuit qui réussit généralement bien à Rosberg, j'ai l'impression qu'elle a l'air de lui plaire aussi.
Qu'il ne devrait pas y avoir de pluie.
Voilà, avec la longue ligne droite, ça pourrait être sympa.
Ah oui,
ça sera un bon test.
Les Mercedes devraient être pas mal.
Il est bien pour le F-Duck, hein, le Grand Prix de Chine. Ah, donc,
oui.
Et donc sinon, la première ligne, c'est la même que la semaine dernière. Donc Dino, il en a déjà marre. Deuxième place.
Non, j'en ai pas déjà marre. Mais je dis, rappelez-vous, l'an dernier, on commençait déjà à redouter la domination de Red Bull. On commençait déjà à avoir des râleurs. Je fais mon râleur.
J'apporte une précision, parce que l'année dernière, on redoutait la domination de Red Bull, alors qu'il n'y avait que Vettel sur la première ligne. tu dis pas de bêtises. Il y a les Weber.
Là, oui.
T'as dit que là, il y a les deux.
Voilà.
Les
deux. Donc c'est encore plus lassant.
Button 2, Hamilton 1er. Oh, mais.
Ils vont se faire détrôner par les Sauber.
Moi, je dis plus rien. De toute façon, des Sauber qui sont devant, des Mercedes. Ça commence n'importe comment cette saison.
Oui. C'est ça qui est bon.
C'est la 21e pole hein, pour Hamilton, la 149e pour la McLaren et la 84e pour Mercedes. Nous allons passer au top 10.
Le service après-vente de la F1 vous présente le top 10 de la course.
Comme d'habitude, on va parler hein, de ceux qui ont le malheur de ne pas faire partie du top 10. Alors, à noter, faut quand même remercier les gens qui ont voté, parce que, comme on vous l'a dit, on enregistre dimanche soir, donc vous avez même pas eu une journée, vous avez eu une demi-journée.
Oui.
Hein, et malgré tout, vous avez été nombreux à voter, donc merci.
Oui, puisque le vainqueur du jour a collecté 1898 points, et que le dernier n'en a collecté qu'un seul.
Soit 1898 fois moins.
Voilà, puisqu'il s'agit d'Heikki Kovalainen.
C'est bien, un point.
Il a eu un point.
Ouais. Oui. Oh.
Mais moi, je n'en ai pas donné un.
En 23e position, nous avons Pedro de la Rosa.
Avec 2 points.
Ensuite, en 22e, nous avons Timo Glock.
7 points.
Puis Vitaly Petrov, 21e.
9 points, c'est serré.
On se croirait à l'Eurovision, j'ai dit. Vivement qu'il y a un 12 points. Ah bah non, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Oh, attends.
Juste après, nous avons Neran Kartikeyan, 20e.
19.
Puis Philippe Massa, 19e.
24.
Charles Pic, 18e.
27 points.
Voilà. Après 24, j'ai dit.
Si.
Vas-y. Avec un dico.
17e, Kamui Kobayashi.
29.
16e.
Y a pas de latence.
16e, Nico Rosberg.
Non, mais il faut que je le retrouve dans la liste, c'est juste pour ça en plus.
Ouais, c'est ça, cherche pas d'excuses, c'est dit.
61.
15e, Daniel Ricciardo.
79.
14e, Nico Hülkenberg sur sa Force India.
88.
13e, Romain Grosjean sur sa Lotus.
100.
12e, Maldonado sur sa Gaps.
114.
Et enfin, Mr. 11 n'est pas Michael Schumacher, mais Paul Di Resta sur sa Force India.
Avec 214.
Wow. You speak English very well, Shinji.
Yeah. C'était la méthode à parler l'anglais facile avec Shinji.
Après le dictionnaire Shinji français, français Shinji, découvrez bientôt
le dictionnaire français Shinji anglais.
Non, pas un dictionnaire, c'est juste apprendre à compter en anglais.
One, two, allez Dora, vas-y, arrête de super, super.
Alors notez hein, qu'on a donné quelques points au hors top 10. Dino, tu as donné un point à Kartikeyan.
Oui.
Alors, est-ce que c'est pour sa 10e position? Est-ce que c'est pour le défendre?
Non, même là, c'est vraiment juste parce que il a été, à un moment donné, il a eu un demi-point.
C'est vrai.
Puisqu'il était 10e au drapeau rouge et qu'à ce moment-là, si la course s'arrêtait, puisque bon, enfin, logiquement, si la course reprenait, il y avait très peu de chances quand même de revoir Kartikeyan en 10e. Mais si la course s'arrêtait à ce moment-là, il aurait eu un demi-point. Donc voilà, je me suis dit.
Il aurait explosé le score historique.
Voilà. Et surtout, il aurait quasiment assuré la 10e place à HRT.
C'est vrai.
Puisque pour le moment, les Lotus, les Caterham n'ont pas l'air très prêtes de pouvoir aller dans les points, donc voilà.
À noter que tu as aussi donné 2 points à Grosjean.
Pour son départ, qui était fort magnifique.
C'est vrai qu'il a fait un très très beau départ, et sur une piste humide, ce qui n'est pas forcément évident. Et puis il a fait la place, il est allé nickel, très propre.
Mais vraiment départ d'école, type PlayStation, voilà, comme on aime bien. Ça, c'est...
Ouais.
Sinon, tu as donné 4 points à Kobayashi.
Oh merde, putain, c'est ma soirée. Oui, Kobayashi, parce que je trouve qu'il a fait une bonne course, éclipsé par son coéquipier, mais il a fait une très belle course. Voilà, peut-être des fois, j'ai vu une Sauber et c'était pas lui.
Peut-être.
Mais
c'est
je
pas
crois que c'est... Chance, non, je crois que c'était lui. Parce qu'il avait pas des pneus pluie à un moment donné.
S'il y avait une Lotus pas très loin, c'est que c'était Kobayashi.
Voilà, c'était Kobayashi. Non, mais Kobayashi, il a abandonné aussi. Oui. Mais avant d'abandonner, il était pas mal.
Sinon, alors... Les Force India ont été un petit peu boudés, hein, mais faut savoir que... Alors, Di Resta, tous les trois, on lui a donné des points.
Ah, c'est mon top 4 de la fin qui descend, dis-moi.
Donc, moi et Bouchard, on a donné 4 points. Dino, tu as donné 6 points. Ouais, c'est vrai que les Force India, au final, elles sont dans les points. C'est pas les voitures qu'on a le plus vues.
Hein. Mais dire ça, il a fait une course à la Rosberg, pour le coup. C'est-à-dire qu'une bonne course, il est parti, il est bien parti, il s'est vite retrouvé en position en 6-7. Et il y est resté jusqu'à la fin, jamais inquiété. Même pas par Vergne. Ben, voilà, je crois que Vergne, il essayait de le rattraper, puis il n'y arrivait pas.
Ouais.
Et sinon, Hülkenberg, Dino, tu ne lui as pas donné de points, mais moi je lui en ai donné 2, et Buchor n'a donné 1.
C'est bon, ses dents, il peut rien. J'ai trop de mal avec ses dents, je suis désolé. Et je crois que Pérez a le même problème.
Quoi, c'est pas... les gens ont le droit d'avoir...
les dents qui avancent au-dessus des lèvres. Non, c'est pas normal.
Non, moi je l'ai mis au classement surtout, pareil, voilà, on l'avait pas forcément vu, justement. Et toi,
non, et puis moi je l'ai mis pareil parce que quand tu regardes d'où il est parti sur la grille de départ, c'est il a fait une belle remontée quoi.
Il part 16e. Hein.
Donc il fallait y aller pour aller les chercher les points.
Et globalement les Force India, je les trouve décevantes.
Pour l'instant, ouais.
Alors c'est vrai que bon, on a passé tous nos essais hivernaux à dire faut pas tirer de conclusion, mais quand même les Force India, elles avaient l'air quand même fringantes dès le départ. Et c'est vrai que à Barcelone, elles ont commencé à rentrer un petit peu dans le rang. Et puis arrivé en Australie et en Malaisie, bah oui là, en tout cas en performance pure, c'est pas transcendant.
Ouais. Non, par contre, il y a une image que j'ai vraiment particulièrement aimée en parlant des Force India. C'est pendant le drapeau rouge. Voyais Diresta et Hülkenberg qui étaient tous les deux qui discutaient tranquilles. Vraiment, tu sentais qu'ils s'entendent. Tu voyais qu'ils s'entendent bien les deux.
Ça fait des grands prix. Attendons.
Oui, d'accord, mais j'ai trouvé. Tu vois pas ça quoi. C'est rare de voir ça. Là, les deux coéquipiers, ils étaient bien. Ils se parlent, discutaient. Tu vois, ils s'occupaient. Moi, je trouvais ça bien, quoi.
Bah, ils savent aussi que c'est dans leur intérêt de bien s'entendre, pour le moment, en tout cas.
Oui.
Oui.
Alors, à la 10e place, il a marqué 243 points. Est-ce que on pouvait imaginer un jour qu'il serait là? C'est Sébastien Vettel.
Et le pire, c'est que je vois même pas pourquoi on le met à la 10e place.
Enfin. Buchor lui a donné 8 points.
Mais Buchor, qu'est-ce qui t'arrive?
Mais alors, en fait,
c'est surtout... Remets-toi à fumer, Buchor.
Non. Ouais, c'est surtout moi, sa calife qui me l'a fait mettre là, parce que j'ai trouvé que c'était vraiment pas mal ce qu'il avait fait et qu'il voulait. Déjà qu'il avait voulu tenter quelque chose, qu'il avait fait, je trouve, vraiment un bon tour, parce qu'il faut prendre en compte qu'il avait les pneus durs. Et bon, après, c'est vrai que sa course est pas du tout extraordinaire, mais bon, après, il était, s'il avait pas eu son incident de sa faute, que je juge de sa faute avec Carty Client, il était finissait à une pas mauvaise place, quoi. Non,
mais c'est vrai qu'il fait un relativement bon début de course.
Oui.
Surtout quand tu penses qu'il était parti sur une stratégie. Moi, j'aurais bien voulu voir la course sur le sec pour voir sa stratégie. Ouais. Voir ce que ça aurait pu donner, ça aurait pu être intéressant. Surtout que Paul Embury avait dit hier soir, en termes de performance en début de course, les pneus durs seront mieux. Donc, je me disais, ouais, il va remonter, il va jouer la première place, puis après, ça va être intéressant, on va y voir vraiment des trucs stratégiques. Et c'est ça qu'ils ont toujours je trouve qu'ils ont toujours un petit peu le sens chez Red Bull et notamment avec Vettel de sortir des stratégies qui soient un peu en contre-pied. Déjà en Australie, sous la safety car, ils sont un peu.
Ils n'hésitent pas, quand ils sont dans une situation difficile, d'essayer de trouver quelque chose de complètement décalé.
À prendre un risque.
Oui.
À la 9e place, un autre champion du monde, il a marqué 268 points, c'est Schumi. Alors, moi, je lui ai donné un point, je suis le seul. Moi, c'était surtout pour sa qualif, à vrai dire. Puis, il a fini 10e. Donc, c'est vrai qu'il a eu une course un petit peu difficile quand même. Voilà.
C'est un peu le problème, c'est que je pense sincèrement qu'il fait une super course après son incident, mais le problème c'est que voilà, comme il y a eu un incident au départ et que derrière il est en chasse patate, cette course là on la voit quasiment pas quoi.
Oh non,
ouais.
Oui, parce que bon, après son souci il retombe à la 12e place jusqu'à la 13e, et puis après, ouais, il est toujours plus ou moins derrière Kobayashi, puis Maldonado, et puis forcément, oui, vu ce qui s'est passé, bah on l'a pas vu. Alors autant passer à la 8e place avec un autre champion du monde, c'est Button. Button qui a quand même reçu 360 points, mais aucun de nous trois.
Il a fait des bons appels de stratégie. Et je pense sincèrement que sans son incident avec la HRT, il était en mesure concurrencer Hamilton.
Il aurait pu faire des trucs bien.
Ouais, mais j'ai envie de dire la bourde qu'il a fait à HRT, elle est
tout à fait.
Je pouvais attendre beaucoup de monde, mais certainement pas de Button quoi. Que je juge bien meilleur que ça sur le mouillé. Et justement, c'est ça qui m'a déçu et je le dis tout de suite. Pour ça, j'ai pas mis dans le top 10.
Passons dans ce cas-là à la 7ème place.
Oui.
Avec un nom de champion du monde.
Oui.
Je dis bien un nom, parce que lui, il les a pas encore, les titres.
Ouais, je suis pas sûr qu'il les a jour, mais...
Mais en tout cas, j'ai envie de dire, on l'a découvert sous un nouveau visage, et pour ce coup-là, ce week-end, il était très positif. Il a marqué 595 points, donc il y a quand même un bon gap hein, avec Button. C'est Bruno Senna.
Oui, ouais. Qui a fait ce que son oncle n'a pas fait, c'est-à-dire terminer une course avec Williams et marquer des points avec Williams. Ce que malheureusement, Senna n'a jamais eu le temps de faire.
Bouchard, tu lui as donné 6 points, moi je lui en ai donné 12, et Dino, tu lui en as donné 15.
Ouais,
moi, j'ai mis 3 points. C'est le nom qui t'a plu, Dino, c'est ça?
Non, mais c'est...
Il fait une très belle course.
Faut pas oublier, c'est qu'il a un incident au premier tour.
Encore une fois.
Voilà. Encore une fois, tout à fait. Et que c'est un peu copier-coller de sa course de la semaine dernière. Et c'est aussi ce qui montre que c'est vraiment dommage que Grosjean se court-circuite comme ça. Parce que tu peux avoir, surtout dans ce genre de course, tu peux avoir un incident au premier tour. Et derrière, récupérer la situation au moment du drapeau rouge. Je crois que Senna, il est dernier. Enfin, il est 23e avec l'abandon de Grosjean. Il est dernier. Et il va remonter dans la course. Il va remonter jusqu'à la 6e place. Bon, alors, il est bien sûr aidé par le drapeau rouge. Mais il avait vraiment un rythme assez impressionnant à un moment donné. Puis tu te demandais, mais où est-ce qu'il va s'arrêter? Voici, il était en train de dépasser tout le monde. Puis des beaux dépassements en plus, vraiment sous la pluie. Comme je l'ai mis c'est moi qui ai écrit le bilan et j'ai mis une course magique, M-A-G-I-C, de Bruno pour Williams. Parce que tu sens que c'est quand même un gamin qui a fait un peu de karting avec son oncle,
surmouillé,
et qu'il a sans doute quelques petits trucs surmouillés, quoi. Donc tu te dis, voilà, il y a un peu des gènes, quoi. Donc ça fait plaisir, ouais.
C'est vrai que c'est clairement, ça me rappelle une, la façon dont il remontait les voitures à un moment donné, ça me rappelait une course de son oncle. Je sais plus sur quel circuit c'était, mais c'était hallucinant. Pardon, Donington?
C'est pas Donington.
Le fameux
premier tour de Donington.
Ouais.
Enfin, les trois premiers virages de Donington.
Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Il a été doublé. C'était parfait. C'était bien maîtrisé. C'était propre. C'était, y a jamais eu du vas-y que je te pousse. C'est de la F1 comme on aime l'avoir.
Maintenant, il faut qu'il se qualifie mieux parce que on sent quand même que cette Williams.
J'ai l'impression qu'elle est bonne en course, mais pas forcément qualif.
Voilà. Mais justement, avec.
Je crois qu'il fait 12e en qualif, non?
Oui, il fait. Voilà. Et on voit, bon, justement, Maldonado arrive à un peu mieux se qualifier et, bon, quand la mécanique suit, ça va. Donc, peut-être que Senna, mieux se qualifier. Parce que pour l'instant, il est un peu en recul par rapport à Maldonado et franchement, il a une très belle occasion avec cette voiture.
Oui, parce qu'en plus, même Maldonado fait une belle course parce que au moment des ravitaillements, il explique que dans la pit lane, il a aucune visibilité, donc il loupe son stand.
Alors Maldonado fait 11 et Senna fait 13.
Il retombe au dernier rang et Maldonado, au moment où il abandonne sur problème moteur là, 2-3 tours de la fin, il est 10e. Donc tu te dis, voilà, il est quand même remonté du fond de peloton pour revenir dans la 10e place. Les Williams, t'as presque envie de te dire, c'est dommage qu'ils n'aient pas un meilleur pilote.
Alors, d'un autre côté, il faut se méfier, c'est que la pluie a tendance à gommer les différences de performance et mettre plus les pilotes en avant. Donc la Williams s'est paraissait très bonne aujourd'hui, mais parce que c'était une course sur le mouillé.
Oui, mais
en même temps, elle a déjà montré des choses en Australie.
Voilà.
C'est pour ça qu'on dit ça.
Oui, effectivement, elle avait déjà montré des choses en Australie, mais il faut peut-être pas trop s'enthousiasmer.
Voilà, non, mais en tout cas, pour jouer les points, c'est pour ça que tu dis, voilà, c'est que quand tu vois par exemple Senna et Maldonado qui peuvent jouer les points, tu te dis avec un Raikkonen par exemple, s'il était y allé, avec un Alonso, c'est une écurie qui pourrait vraiment peut-être retrouver une dynamique pour redevenir une écurie de premier plan, quoi.
Oui.
En tout cas, c'est une première pierre qui est bien posée.
Moi, c'est ce que j'ai noté dans les commentaires, c'est que j'ai dit, pour les points que je donnais à Senna, j'ai limité, ça fait plaisir de voir Williams dans les points. Clairement, ça fait plaisir de voir Williams sortir la tête de l'eau. Hein.
Donc ça va, par rapport à ce qu'il apporte, 8 points pour 15 millions, ça va, c'est un bon ratio.
C'est toujours plus de points que l'an dernier.
C'est vrai.
Enfin, si on rajoute je crois que c'était combien de points la semaine dernière pouvait faire Maldonado en étant septième, je crois.
Septième, non, sixième. Septième, c'est 6, donc 8 points.
Ouais. Donc tu vois, Williams pourrait avoir 8 points aujourd'hui. 16 points aujourd'hui.
16 points. Ouais, déjà, ils font mieux que l'an dernier.
Ouais.
Parce qu'ils avaient marqué que 5 points, rappelons-le. On va passer à la 6e place. Vous voulez rajouter quelque chose sur Senna?
Non. Moi, j'ai rien à dire.
On a fait l'autre BA de l'année, ça.
Oh, non. Non, non, la BA, elle va venir dans...
À la sixième place, il a marqué 606 points. C'est Mark Webber, qui est meilleur que son coéquipier. Et pourtant, son coéquipier, c'est pas n'importe qui.
Et je commence à m'inquiéter de revoir un scénario type 2010. C'est-à-dire un Webber qui, par sa régularité, sans forcément faire des merveilles pour le moment, va peut-être mettre le doute dans la tête de Vettel. C'est un bon test, moi, je trouve. C'est un bon test.
Ah, oui.
Vettel avec une voiture en dessous de ses espérances et avec un coéquipier qui, pour le moment, lui mène à nouveau la vie dure, c'est un bon test pour Vettel.
De toute façon, c'est dans ces moments-là que les champions se révèlent. Parce que bon, il y a les difficultés avant le titre, qui sont normales, puis il y a le succès avec les titres, mais ce qui est intéressant, c'est comme Hamilton, c'est ce qui se passe après, c'est quand ça va mal après, comment on rebondit. Là, pour l'instant, Webber, c'est vrai, il domine Vettel.
Bah oui, ça arrive. Hein.
Mais sans être flamboyant.
Non, ah non,
il est toujours même dans ce style. Même là, récemment, moi, je l'ai pas mis parce que je l'ai pas trouvé sans sas, quoi.
Mais moi, j'ai l'impression qu'il a été plus bridé par la voiture. Moi, je l'ai mis troisième parce que je trouve que justement, j'ai l'impression qu'il est, qu'il peut pas briller à cause de la voiture et que il en a sorti pas mal et que contrairement, il finit quand même quatrième, si je dis pas de bêtises.
Ouais.
Et que clairement, il partait quatrième, il est arrivé quatrième, qu'il n'a pas une voiture pour faire des exploits, qu'il a, mine de rien, du coup, pas trop mal géré les conditions de course, parce que quand tu vois des autres qui étaient devant, ce qui leur est arrivé, voilà quoi, c'est.
Alors à noter justement, quand tu parles de gérer les conditions de course, à noter qu'on ne l'a pas dit pour Vettel, mais apparemment, il avait un problème de radio.
Ah.
Ce qui fait qu'il n'entendait pas les appels pour aller au stand, il fallait passer par le panneauteur. Donc...
Oui, mais bon, pas arriver à tout le monde, il faut savoir.
C'est juste un détail comme ça.
Non, c'est pas forcément un détail, parce que c'est vrai que dans une course normale, machin. Bah,
c'est chiant quand même, parce que justement, oui, pour tout ce qui est pneus et tout ça,
voilà,
mais faut quand même réagir vite. Hein.
Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire, c'est juste une information complémentaire.
Oui, oui.
Bon, d'un côté, si c'est quand même un double champion du monde, Vettel, faut que voilà, hein. faut qu'il fasse avec et qu'il assume.
Mais j'ai rien dit. J'apporte juste un complément d'information. Arrêtez de. Ah bah je suis passé, monsieur.
Je me chauffe pour la suite.
À la cinquième place, un autre pilote Red Bull, enfin Toro Rosso, c'est Jean-Éric Vergne avec 678 points. Alors Vergne, c'est vrai que Bouchard, tu ne lui as donné que 2 points. Moi, j'en ai donné 8 et Dino, tu en as donné 12.
Ouais, moi, je suis généreux, moi. Automatiquement, dès que tu vires des Weber, des Vettel,
bah oui.
Ça grimpe dans la hiérarchie, quoi.
Ça grimpe.
Non, moi, j'ai trouvé qu'il a fait une très belle course. Surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'il a fait 5-6 tours, là, où il a tenu quand même le rythme avec ses pneus intermédiaires usagés. C'était le seul qui avait des pneus intermédiaires usagés en début de course, sans passer sur les wet. Voilà, il a réussi à garder sa position. Derrière, petit coup de bol, il y a le drapeau rouge, et puis il y a la déclaration qu'il faut mettre que des pneus pluie. Donc du coup, il a un changement de pneus gratuit.
Ouais.
Fait une belle course. Il a fait des beaux dépassements. Il y a eu des belles bagarres où on a vu qu'il savait être prudent dans ses dépassements. Non, c'est vraiment. Moi, je trouve que c'est une belle course. C'est très intéressant. Puis il marque ses premiers points.
Oui.
Il marque ses premiers points.
Ça,
c'est quand même deux courses où il peut marquer des points. C'est plutôt encourageant.
Ben moi, c'est vrai que je l'ai mis que dans mon top 10, je l'ai mis que 9e. J'ai peut-être été pas forcément très généreux avec lui sur ce coup-là, mais après ça joue, tu sais, on met le premier, deuxième, troisième,
oui,
machin.
Oui, il y avait tellement à faire cette semaine.
Voilà, exactement. Donc non, je parle. Mais oui, il fait une course solide, tout ça. Par contre, je l'ai senti quand même sur la fin, je l'ai senti en difficulté et heureusement qu'il n'y a pas eu 4 ou 5 tours de plus, j'ai l'impression.
Dans ce cas, passons à la 4e place. Avec le de nouveau malheureux, hein, puisqu'il ne concrétise pas ses pôles, il a marqué 845 points, c'est Lewis Hamilton. Et c'est pas de sa faute. Enfin.
Oui et non, enfin.
Ah.
C'est pas de sa faute, mais derrière, t'as pas non plus l'impression qu'il soit véritablement en mesure de chasser derrière.
Moi, je lui ai donné 15 points. Dino, tu lui as donné 10. Bouchard, 12. Bon, il est quand même pas aidé.
Mais il n'est pas aidé. Mais après, c'est quand même super étonnant, même si on sait que ça nivelle les valeurs la pluie, mais c'est quand même super étonnant qu'il se fasse larguer comme ça par Alonso et par la Sauber. Et surtout que vers la fin, ils ne reprennent pas de temps à Alonso et ils en perdent sur Perez, alors que la piste s'assèche et que théoriquement, là, la monoplace refait la différence. Donc, oui. Moi, je trouve ça étonnant.
Ouais, il finit à 14 secondes, presque 15. C'est vrai qu'on n'a jamais eu l'impression que...
qu'il était à l'aise dans les conditions, surtout. Je me demande.
Oui, c'est quand même étonnant, parce que c'est quand même Lewis
Hamilton.
Oui, Hamilton. Référence sous la pluie, quoi. Donc, c'est avec Button, l'un des, on s'était posé la question, là, sur les nouveaux maîtres de la pluie. Moi, je trouve c'est assez étonnant. C'est pour ça que je l'ai mis que cinquième. Et toi, Bouchard, tu l'as mis combien?
Oui,
Je l'ai mis quatrième.
Quatrième.
Ouais, voilà. Voilà, quoi. Il a fait une bonne qualif, mais j'ai trouvé qu'il, comme j'ai noté, qu'il n'avait pas su profiter des conditions de course. Alors, effectivement, il y a eu des petits problèmes chez, au niveau des aérostats, mais il faut dire que.
Ça explique
même,
pas tout, non?
Bah voilà, c'était des problèmes qui pénalisaient, quoi, de 2-3 secondes dans les stands. Faut pas arrêter, quoi.
Mais au final, oui, il est à 12 secondes de Perez. Bon, Perez allait vite. Et 15 de Alonso sans jamais avoir eu l'air de les inquiéter. Voilà.
Ouais.
On va passer au podium.
Ouais.
Oui.
Et en troisième place, moi ça me surprend. Pourtant je devrais être le premier content, mais.
Oui, je me doute de,
oui,
je
moi,
me doute
de qui c'était. Max.
Moi aussi.
Je dis même, va falloir que les groupies de Kimi se calment.
Là quand même, allez-y mollo quand même.
Soyez discret.
Il a marqué 991 points, donc c'est vrai que par rapport à Hamilton, voilà, il y a
un gap.
Il y a un gap. Je lui ai donné 10 points comme Buchor. Dino, tu lui as donné 8 points. C'est Kimi. Est-ce que ça méritait une troisième place? Je ne sais pas.
Oui et non. Faut dire
que... course, mais après il y a beaucoup mieux. Je veux dire, voilà, par rapport à ce qu'on a vu. Après, ça fait plaisir parce que il confirme que voilà, il est de retour.
J'ai vu un moment où faire un dépassement en début de course. Où j'étais vraiment super heureux, quoi. Ah, ça, c'est du dépassement, c'est magnifique. Puis après, c'est vrai que Kimi, voilà, je l'ai pas trop vu, en fait. Il fait une bonne course, mais, pas sans sas.
Parce que bon, il part de la 10e place très rapidement, en fait, il est vers les 5e, 6e places, hein, je regarde. Ouais. Bah oui, en fait, il est 8e au premier tour. Puis, juste avant le drapeau jaune, en fait, il est 5e. Et puis après, bah, même après, en fait, après le restart et les tours, vous voyez, il a toujours navigué entre la 5e, 6e place. Il a profité du pépin de Vettel, en fait, pour gagner une place à la fin. Mais il a toujours été plutôt stable, en fait, à partir du moment où il était sur sa 5e place. Comme quoi, il était peut-être vraiment au niveau de la Lotus. C'est-à-dire qu'il a fait sa qualif à la 5e. Il est remonté à la 5e, il est resté à peu près à ce niveau-là toute la course.
Mais d'ailleurs, il n'était pas content de la pluie. Hein. Parce que du coup, il n'est pas content parce qu'on ne sait pas vraiment où il est. Donc, ça t'a l'énerve.
Ah oui, oui. J'ai lu ses déclarations d'après-course.
Il veut un Grand Prix normal.
Voilà.
Ah non, mais en même temps, ça se comprend. Le mec, là, il vient là. Il pleut. Il était à Top Gear avant. Il pleut. Ah ouais, c'est bon.
Ce qui m'a quand même plié en deux, c'est les tweets de chez Lotus F1 pendant l'interruption. Qui a quand même rappelé qu'ils avaient réparé les frigos et qui s'est donc demandé quel type de glace allait prendre Kimi.
Ah, alors c'est un truc, j'attendais qu'une chose et je le vois sortir, tu sais, tranquille, appuyé à la petite tente qui protège la voiture, tout ça. Et je me disais, et il est où le Magnum?
Mais de voir que sur le tweet officiel de Lotus, même ça, ils l'ont repris, quoi.
Ben c'est marrant qu'eux ils en plaisantent, je trouve ça génial.
Oui. Et ils en jouent aussi, ils savent aussi que c'est un côté com et que voilà, ils en jouent un max en se posant plein de questions. Enfin, quand
c'est
tu prends,
c'est vrai que leur frigo a vraiment flambé, donc
un bel incendie. Ils ont été obligés de s'installer ailleurs puisque apparemment leur motorhome était plus très, enfin leur hospitalité était plus très 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 fréquentable.
Bah apparemment ça a complètement cramé, quoi.
Alors la question c'est qui est à la deuxième place? Il a un moteur Ferrari. Il a marqué... Combien il a marqué?
C'est un pilote Ferrari.
Oui. Oui. Il a marqué 1630 points.
Je tiens à rappeler que Perez fait partie du Ferrari Driver
Academy. Oui, il a un contrat Ferrari. C'est vrai.
Et qu'il sera pilote Ferrari théoriquement en 2013. Enfin, c'est quasiment fait.
Si ce n'est pas avant.
Non, en 2013.
Si, avant, peut-être.
Non, en 2013. Non, on va pas gâcher.
Si, pour qu'il soit... Non, mais tu sais, qu'il restera 4 ou 5 Grands Prix pour sûr qu'il se fasse la main, quoi.
Non, ouais. Vous avez mis Alonso à la deuxième place.
Oui.
Sauf Dino qui l'a mis à la première place, bien sûr.
Et s'il avait pu le mettre plus haut, il aurait mis plus haut.
S'il avait pu lui donner 40 points, il leur aurait donné 40.
Non, même pas. Alors, c'est-à-dire que j'ai, vers la fin, je suis très content de la victoire d'Alonso. Hein. J'ai pas du tout espéré la victoire de Perez, je peux vous dire. Je me suis dit, elle me fera quand même plaisir, mais je l'ai pas espéré. Mais je me suis dit, les deux sont vraiment très bons. Bah, pour choisir, je vais mettre en premier tout simplement celui qui a gagné la course. Je vais respecter le classement de la course. Donc voilà, j'ai respecté le classement de la course. Maintenant, je suis très content que Perez gagne. Mais je rappellerai quand même à nos auditeurs que le classement qui compte, c'est celui officiel et pas celui du SAV, on doit le dire.
Ah. Oui.
C'est un faux classement, celui-là.
Tu dis qu'aujourd'hui, il a été monsieur 120%, j'ai envie de dire, il a été monsieur 140, 150, 160, oui. Voire 180% oui. Quand même.
C'est une victoire de Alonso sur une
Alonso. Bouze.
C'est-à-dire ouais, que, je sais pas, on apprendrait que Caterham gagne, ça nous ferait le même effet, quoi.
Voilà.
Non, arrête.
Non, c'est vrai, la Caterham finit pas. Alors que la Ferrari au moins finit ses courses. Loin, ouais, mais elle finit ses courses.
C'est vrai. Bah, ils ont au moins ça, hein, la fiabilité.
Il y a aussi une autre raison pour laquelle j'ai laissé Alonso devant Perez. C'est parce que j'ai trouvé un peu les commentaires de Malbranche le coup de la petite Sauber face à Ferrari, qu'il était en train de nous dire. Il a passé
dans le même week-end
Ferrari, oui. etc. Et pendant la course, ah oui, Ferrari, ça marche toujours bien, etc. Quand vous êtes derrière une Ferrari.
Oui.
Mais en même temps, t'as passé quand même 3 séances d'essai libre et 1 séance de qualif à nous dire que c'était une trapanelle. Et c'est une trapanelle. Oui. C'est quand même 2 pilotes qui se sont battus avec des voitures à peu près égales et même une Sauber qui est un peu plus fort dans la gestion.
Mais de tu sais que Moncey a quand même ouvertement dit que la voiture était pas terrible au tout début de la course, même avant. J'ai vraiment eu peur qu'à un moment, vers la fin, il se mette à dire, ah, oh, mais vous savez, la F2012, elle est bien, hein. Oui. Non, elle est toujours merdique. Il y a pas de souci.
Même Ferrari le dit, enfin voilà, quand on lit les déclarations d'après-course, t'as Alonso, qu'est-ce qu'il dit à un moment donné, Alonso? Ah, il dit un truc super, j'ai adoré sa phrase, elle m'a fait rire. Ah oui, là, il dit, quand je suis arrivé dans la pit lane après la fin, je savais pas où garer ma voiture. Donc ça, on peut dire, bon, le mec, c'était le cas, il a quand même gagné 3 fois sur le circuit, enfin, c'était sa 3e victoire, donc t'as quand même envie de te dire, bon, Fernando, te fous pas d'autre gueule. Et d'ailleurs, en fait, il parle de la performance de la FW, tu dis, ah oui, en fait, ça veut dire qu'avec Ferrari, il a oublié ce que c'était de se garer quand on gagnait. Donc tu dis, il y a quand même une petite pique sur Ferrari, c'est Gillette, quoi, c'est une lame, puis après, je caresse.
Mais pour ça, bah, le truc, c'est qui est génial, c'est que Ferrari, c'est que pertinemment, la voiture, c'est une trapanelle. Fernando qui leur décroche une superbe victoire et qui leur balance une pique. Ils peuvent rien faire derrière Ferrari. Ils peuvent pas critiquer Fernando.
Non.
Ils peuvent pas.
Et c'est exactement le discours qui tiennent avec Massa, quoi. Ils disent, on peut rien reprocher à Massa. On tient déjà pas, nous, notre part du marché. On va pas virer Massa, alors que pour le moment, bah oui, il fait rien, d'accord. Mais en même temps, on lui donne rien à faire, parce qu'on a une merde comme voiture.
C'est ce que a souligné Montagny dans le dimanche F1, c'est que ce soir Alonso, c'est Dieu.
Ah bah oui. Ah mais moi je le dis sincèrement, aujourd'hui Alonso avec cette victoire là, pour moi, il rentre dans le panthéon des grands pilotes de Ferrari. Il rentre quasiment comme un des égaux de Schumacher, quoi. Tu lui confies les clés de la baraque. Tu as envie de le laisser faire.
Si demain il dit oui les gars, je veux qu'on repeigne les voitures en violet fluo, ils vont leur dire écoute,
On va y réfléchir. Ah non, mais je suis entièrement d'accord. Il a fait vraiment un super boulot. Et juste pour revenir sur le commentaire que tu disais, effectivement, quand c'est Malbranche qui disait la petite Sauber face à Ferrari, je pensais plutôt la petite Ferrari face à la moyenne Sauber. Mais bon.
Oui, voilà.
Et voilà, Alonso, j'ai noté à mes commentaires, je l'ai mis deuxième et il prouve une fois de plus qu'il n'est pas double champion du monde pour rien, quoi. Il a un talent incroyable, ce mec.
Mais maintenant, ça sera intéressant de retrouver un Massa un peu plus saignant, un peu plus régulier. Même là, il a dit. Il va falloir qu'on essaie de trouver pourquoi nos deux voitures fonctionnent différemment, parce que quand les déclarations de Ferrari où il dit ouais, faut qu'on trouve pourquoi les deux voitures marchent différemment. Attention Felipe, ne donne pas des idées à Stefano parce que c'est dangereux. Mais t'as vraiment envie de voir exactement qu'est-ce qu'il apporte de plus à cette Ferrari, parce que tu sais que la Ferrari, ouais, elle est entre les deux, mais tu sais pas trop où, tu sais pas si elle penche plutôt vers le niveau de Massa ou plutôt vers le niveau d'Alonso. Est-ce que c'est, oui, Massa qui est très mauvais ou est-ce que c'est Alonso qui est extrêmement
fort? L'écart est tellement fort que,
oui. Voilà, c'est aujourd'hui, moi, j'aimerais voir un point de repère sur lequel on peut se fier et on nous dit, voilà, ça c'est Ferrari à 100%, voilà ce qu'amène Alonso. Ah, d'accord. Bah,
écoute, voilà ce qui retire Massa.
Ah, d'accord. On va retirer Massa alors.
Ah, mais ouais, je pense que sur ce coup-là, Alonso a particulièrement bien exploité la voiture. À noter aussi quand même, pour une fois, Ferrari n'a pas merdé sur les stratégies.
Non, c'est ce qui a aussi contribué à
sur les stratégies. Mais c'est ça qui est étonnant, quoi. C'est que c'est peut-être aussi le réflexe de grande équipe. Donc du coup, je prends un peu le ciboulot et un peu ce que je disais tout à l'heure sur Red Bull. Hein. Mais là, voilà, on sent qu'ils sont dans la peine. Donc du coup, ils se concentrent sur tout le reste. Moi, je reste sur leur. J'ai pas vu les arrêts au stand aujourd'hui, mais sur leurs arrêts au stand en Australie, ils font les 4 meilleurs temps de tous les arrêts au stand. Les 4 meilleurs temps. Ils ont fait 5 arrêts. C'est-à-dire, grosso modo, ils en ont foiré un qui est 6e. Voilà. Et là, ils ont encore fait des super arrêts au stand. D'ailleurs, on a vu des arrêts au stand doubles où là, vraiment, il n'y avait pas 3 secondes d'écart entre la première et la deuxième voiture. Et qui, voilà, ça s'est très bien passé aussi. La
oui, ce sont
des équipes professionnelles.
Alors, messieurs, à la première place, lui sera peut-être... Enfin, il a déjà un contrat Ferrari. Mais peut-être que sa combi va changer de couleur en cours de saison.
Non, il n'y a pas un contrat, c'est un pilote Ferrari.
Un pilote Ferrari.
Voilà, pour le moment, il n'a pas de contrat avec Ferrari. Mais ça ne va pas tarder. Je pense que déjà ce soir, il y a des petites discussions.
Il a marqué 1898 points. Hein, donc, Buchan et moi, on l'a mis premier. Dino, tu ne l'as mis que deuxième.
Oui.
Voilà. Ah, je comprends, Dino.
Mais quelle course. Quelle course. Ah,
quelle course magnifique.
Il a fait une erreur. Une.
Une.
Ouais, bah, et encore, parce que il se plante. Bon, il était à moins d'une seconde. Il se plante, il se retrouve à 5 secondes. Mais après, il recommence. Alors peut-être qu'après, Alonso quand même a ralenti un peu. Parce que
on non, il a dit. Alonso, il a dit, sur la fin, j'avais une stratégie. C'est que je restais sur la trajectoire. Et surtout, je me disais dans la tête, s'il veut me dépasser, il va falloir qu'il sorte de la trajectoire. Donc il aille dans le mouillé. Donc il a dit, voilà, moi, je l'attendais, j'étais prêt.
Parce que même après sa sortie, il recommençait à prendre facilement une seconde autour sur Alonso.
Mais je dirais même qu'il a fait deux erreurs débutants. D'abord, il y a sa petite erreur à la fin où il attaque, bon, ça c'est pure erreur de débutant. Et il y en a une deuxième où c'est l'erreur du débutant qui... C'est pas une erreur en soi, mais c'est juste que c'est le signe que c'est un débutant. C'est quand Alonso sort des stands, on voit l'espèce de petit coup de volant, de petit coup d'arrêt où tu sens dans la tête de Perez, il se dit, est-ce que j'y vais? Est-ce que je le suis? Et puis il doit recevoir, il doit se dire, non, je vais pas prendre la responsabilité, je vais faire un tour en plus. Parce que ça, c'est un truc, c'est un champion du monde juste derrière Alonso, mais il le suit, quoi.
Et il perd beaucoup, hein.
Voilà, là, je pense que Perez, il a un peu péché par le fait que c'est un débutant et que voilà, il se retrouve dans une position qu'il connaît pas forcément, où il a pas voulu dicter la stratégie alors qu'il aurait dû rentrer. S'il rentre à ce moment-là, il fait pas forcément l'erreur qu'il y a derrière en voulant attaquer, et donc du coup, il gagne la course.
Ouais, alors, il
partait pour ça.
Justement. C'est... Il remontait à coup d'une seconde pleine. Mmh. Ouais, c'était une seconde pleine qui prenait un partout. Par contre, comme tu dis, ça rejoint la déclaration d'Alonso. Il aurait fallu le doubler, le Fernando.
Oui. Ouais.
Parce que même avec une seconde d'écart entre les deux.
Ouais, mais avec le DRS dans les deux grandes
lignes. Ouais.
C'est ça aussi le truc, c'est que sachant que maintenant tu peux ne plus changer qu'une seule fois de ligne, même si visiblement Massa l'a un peu oublié aujourd'hui. Puisque Massa, du coup, comme il est un peu désespéré, il fait un peu n'importe quoi. Hein, donc.
C'est qui au moment qu'on a suivi qui a doublé Massa? C'était pas Vergne?
Ouais, il y avait Vergne. Ouais. Vergne, c'est Vergne dans le premier virage où t'as Massa qui part à l'extérieur, puis il se rabat à l'intérieur. Mais
qu'il a limite poussé.
C'est pas possible, quoi.
Qu'il a emporté vers l'extérieur, Massa.
Avec cette remarque qui m'a tué d'ailleurs, je crois que c'est dans Dimanche F1 où ils disent, ouais, vous avez vu Vergne, il dépasse Massa. Hein. Ouais, enfin, il dépasse Massa.
Non, mais j'ai trouvé la façon de faire de Massa. J'étais là, j'ai croisé les doigts en disant, Vergne, fais pas. Sois prudent, parce que Massa, il a quand même pas une historique de dépassement.
Surtout, voilà,
mais je le trouvais un peu trop impétué et frustré, Massa, qu'il se faisait dépasser.
Voilà, c'est là où Vergne a été intelligent, quoi. C'est dit, attention, là, je suis derrière Massa. C'est un pilote qui, en ce moment, aux abois, il est sur les nerfs. Je vais pas les chatouiller. Je vais essayer de me faire ma place. parce que sinon ouais, il allait sans doute au carton de pauvre.
Ah oui, c'est ce que je craignais quoi.
Mais après, c'est même pas Verne, c'est Ricciardo je crois.
Ou Ricciardo, je sais plus qui c'est. Il me semble bien que c'était une Toro.
Il y a un moment ils ont été pas mal à le doubler donc.
Oui, c'est vrai.
Oh, c'est bon.
Et vous croyez qu'il va se faire doubler par Dash Charter à la fin de la saison?
Ah non, il sera fait virer avant. On peut pas arriver.
Non, parce que malgré tout, tu vois, la Ferrari, je suis pas aussi pessimiste que ça, quoi. Je me dis, là, on voit la qualif, ils sont allés à 7, 8 dixièmes en qualif. Tu te dis, il suffit que vraiment ils arrivent à corriger leurs problèmes pour que ce soit pas loin. Donc, à partir de là, tout peut arriver. Est-ce qu'ils vont être capables de redresser la barre à ce point-là? Je sais pas. Mais en tout cas, les écarts sont pas gigantesques pour le moment. Donc, c'est plutôt une chance. Quand tu pars de très bas en même temps, tu peux qu'arriver très haut.
Oui, ça c'est sûr. Mais j'espère qu'ils vont redresser la barre avec la version B. Ce serait quand même sympa de voir Ferrari se mêler à la lutte pour le titre.
Bah, surtout pour Alonso, quoi. Enfin,
oui.
On voit ce que fait
ouais,
Alonso,
c'est clair.
Alonso.
Il se retrouve dans la situation de Schumacher en qu'il est arrivé chez Ferrari, sauf qu'il n'a pas un Todd et un Brown pour l'aider.
Voilà.
Ouais. Sinon, quelque chose à rajouter sur Perez.
Bravo, quoi.
J'étais vraiment content pour lui. Je me disais, alors, j'aurais aimé le voir gagner. Mmh. Mais j'ai quand même été content, je reconnais que j'ai quand même été content pour Alonso que ce soit qu'Alonso gagne, parce que franchement elle est superbe cette victoire avec sa trapanelle.
Oui.
c'est en quoi qu'il arrive, c'était deux belles victoires quoi, c'était
voilà, c'était l'un ou l'autre.
Une victoire à la Sébastien Vettel en 2008 quoi, voilà, une victoire qui fait plaisir à tout le monde, soit la victoire d'Alonso qui est très belle aussi parce que c'est limite même déchirant que tu puisses pas en faire gagner deux quoi, parce que voilà, Alonso il fait une super course, Perez il fait une super course à confirmer par la suite hein, mais il fait une sacrée course, donc tu te dis voilà, on aurait aimé que les deux gagnent.
Mais à la limite, si ce n'est pour le pilote, mon seul petit regret, c'est que j'aurais, à la limite, que si Perez avait gagné, j'aurais été certainement plus content encore pour Peter Sauber que.
Qui était en pleurs.
Ah ouais, c'était magnifique à voir. Quoi. Ça a toujours été cette petite écurie sur laquelle. Tu sais, de milliers de peloton sur lesquels tu peux compter pour sortir de ces genres de petites performances.
Mais pour moi, Sauber, ça fait partie de l'histoire de la F1, comme Williams, McLaren, etc.
Et j'ai envie de dire qu'il joue le jeu aussi avec Ferrari. Cette entente entre Sauber et Ferrari, ça a toujours bien marché. Et c'est positif, quoi.
Et c'est ce qui fait que je ne pense pas que Ferrari ira piquer Perez en courte saison. Je pense qu'il y a une telle entente entre les deux, surtout pas pour mettre Bianchi derrière. C'est-à-dire le coup, ouais, on va mettre Bianchi derrière. Oui, non, je pense que Sauber va plutôt garder Gutiérrez, voilà. Quitte à ce que on soit dans le scénario de Perez part en courte saison chez Ferrari, ils vont plutôt prendre Gutiérrez, qui est mexicain et qui va donc être soutenu par Telmex.
Par Telmex.
Voilà. C'est peut-être plus logique que de prendre Bianchi, qui est en train de rouler pour Force India en ce moment. Donc c'est pas une bonne idée.
Ouais, oui. J'espère juste que. Pour conclure, que ça permettra à Sauber d'attirer un peu des sponsors.
C'est vrai.
Oui, parce que ça a un petit peu choqué tout le monde. Hein.
Ça manque sa voiture. Hein.
Ça manque. Au classement, eh bien en tête, on a Fernando Alonso, 30 points. Devant Xeco, Button et Perez, 29 points. Raikkonen, 25. Hamilton, 24. Au niveau des équipes, McLaren est devant, 53 points. Red Bull, 35. Alonso est à 33 points. Sauber à 29 et Raikkonen à 25.
Plus, si je me trompe pas, c'est tous les points de Ferrari, c'est les points d'Alonso.
C'est les points d'Alonso, de même que ceux de Lotus, c'est ceux de Raikkonen. Dans l'autre classement, eh bien, là encore, non seulement il y a la victoire, mais Alonso est en tête du classement, 35 points, devant Hamilton, qui, malgré ses deux grands prix un peu décevants, est deuxième, 30 points, devant Button, 25, Weber, 24, Perez est cinquième, 22 points. Et Vettel n'est que sixième à 18 points, et Raikkonen est à 16 points.
C'est incroyable. Mais quand même, week-end manqué pour McLaren.
Oui, vraiment.
Là, c'est vraiment la faute pure, c'est une grosse partie de la faute de McLaren. Comment ils ont chié dans la colle.
Et pourtant, ils restent premiers. Ils augmentent même un peu parce qu'ils avaient 10 points d'avance. McLaren, 55 points. Red Bull, 42. Ferrari, 35. Sauber, 30. Et Lotus, 16.
Sauber, 30 points déjà.
Eh oui.
La cinquième place, je peux dire, franchement. La cinquième place, forcément, il commence à se dire, bon, alors, bon.
Alors. Hein. Mercedes, c'est les derniers classés avec un petit point.
Ouais.
C'est dingue, hein. Mais si on va passer au fait marquant, nous allons voir le sondage, hein, quel était selon vous le fait marquant du Grand Prix d'Austrie. Vous avez été 109 à voter, merci à vous. En troisième position, 27 votes, 24,77%, c'est Alonso qui sauve Ferrari de la noyade.
Ça, c'est toi, ça, non?
C'était moi. Deuxième position, 37 votes, la dépanneuse qui fait son tour de piste, 33,94%. Et Dino, première victoire,
ouais.
45 votes, McLaren qui domine Red
Bull. J'espère que c'est pas Spooked. Je peux pas faire comme Ferrari, une victoire en début de saison, puis plus rien ensuite. Pourvu qu'il pleuve régulièrement.
Donc c'est à moi. Et
je l'avais fait exprès, je lui dis.
Alors non, alors franchement, tu vois, je me disais en plus, Alonso qui sauve Ferrari de la noyade, ça va marcher. Bon, les écarts n'ont pas été gigantesques, mais je suis déçu quand même. Je vais mettre la révélation Perez.
Et toi, Bûcheur, tu mettrais quoi?
Vas-y,
écris, Shinji.
Non.
Ah, ça, c'est ta gag, j'ai dit.
Le deuxième naufrage de Grosjean. Et toi, Dino?
Comment
on va le formuler.
Faut trouver une belle formulation.
Alonso gagne sur une Lada.
Malgré une Lada.
Oh, c'est bon. L'improbable victoire d'Alonso.
C'est classique.
Oui, mais c'est une valeur, c'est classique, oui. Mais...
J'allais ça m'assurer tous les fans de Ferrari.
Donc, cette semaine, nous vous proposons donc quel est, selon vous, le fait marquant du Grand Prix de Malaisie. Vous avez le choix entre la révélation Sergio Perez, le deuxième naufrage de Grosjean et l'improbable victoire d'Alonso. Et Dino, pour voter?
C'est sur fanf1.com, sur l'article du service après-vente de la F1, voilà, sur fanf1.com.
Et d'un normalement, j'ai déjà dû voir.
Sur iTunes, c'est que vous pouvez noter notre podcast sur iTunes. D'ailleurs, il y a Lewis Hamilton qui a voté pour nous, Cindy.
Waouh.
Et il nous a mis 5 étoiles.
Il a bon goût.
Ouais. Bah, en même temps, il s'y connaît en 5 étoiles.
Oui.
Oh. Crash test.
Je pense aux hôtels, mais les crash tests, ça colle aussi.
Ça colle aussi. Messieurs, on va passer au concours.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours Top Position. Franchement, si vous avez compris les règles, vous êtes déjà un champion.
Alors, le concours Top Position était remporté la semaine dernière par Steve, qui vous posait, chers auditeurs, la question suivante. Quel événement spatial s'est déroulé le jour de la naissance d'Alex Young? Et la réponse, Shinji, l'as-tu trouvé?
Alors, je l'avais trouvé, alors si... parce qu'il faut rappeler qu'il est né un 20 juillet.
Voilà, 1976.
Et donc, tiens, ça a aussi un rapport avec John Carter of Mars. Comme quoi, comme vous le savez, tout est lié. Puisque, oui, c'est donc le premier amarsassage.
Oui. C'est, oui, effectivement.
Atterrissage sur Mars, quoi.
Voilà. Oui, on dit alunissage, donc il doit bien y avoir un mot pour Mars. donc c'était donc la première fois qu'il y a eu une sonde qui s'est posée sur Mars. C'était les sondes Viking.
Ouais, la Viking 1.
Wow.
Qui se pose sur Mars et qui, je crois, fournit les premiers clichés de Mars pris sur Mars.
Oui, c'est mieux. Parce que oui, non, mais se poser sur Mars, genre, il prend des photos de la boule, on s'en fout un peu, tu vois.
Ça serait couillon d'envoyer une sonde pour qu'il prenne des photos de la Terre. Le projet de 50 milliards qui sert à rien. Et donc, j'ai dit, nous avons reçu trois réponses. Je vais t'en lire une pour que tu me dises si tu la valides ou pas. Puisque nous avons... Non, je rappelle la question avant. Hein. La question, c'est quel événement spatial s'est déroulé le jour de la naissance d'Alex Young?
Donc, c'était le 20 juillet 76.
Et donc, voilà une question qu'on m'a soumise. Indirectement, tu viens de répondre à mon doute. Qui est, Alex Young est né le 20 juillet 1976. Selon moi, l'événement spatial majeur qui s'est déroulé le 20 juillet, mais cette fois-ci 1969, est le premier alunissage de la mission américaine Apollo 11. Alors, Shinji, considères-tu cette réponse comme...
Peux-tu nous redonner l'intitulé de la question?
Donc, quel événement spatial s'est déroulé le jour de la naissance d'Alex Young?
C'est pas l'anniversaire d'Alex Young, c'est le jour
ni
de la naissance.
Ni la date, c'est le jour, oui. Donc, c'était vraiment le 20 juillet 76.
Donc, allons nous excuser auprès de Zal 1991, dont nous ne pouvons pas accepter la réponse.
C'est vrai que... C'est pour ça, je me base déjà à la base sur justement la question, parce que parfois, il peut y avoir des failles dans le règlement.
Alors Shinji, tu vas pouvoir t'aider de Bouchard cette semaine.
Ah, bien.
Puisque Bouchard n'a pas participé. Je vais te lire les deux questions, enfin je vais vous lire les deux questions, et vous me direz laquelle retenir. Première question. Cette année se déroulera pour la première fois une course d'endurance à Shanghai, comptant pour le WEC, donc je crois que c'est le championnat du monde d'endurance.
Le World Endurance Championship.
Thank you, Shinji. Quel circuit fut utilisé auparavant pour cette course qui comptait à l'époque pour l'International Le Mans Series? Voilà, donc on veut juste le circuit.
Ouais.
Et la deuxième question, c'est quelles sont les trois variétés de NEM les plus répandues?
Ah, je préfère la deuxième, moi.
Ah, mais oui, mais attends, qu'est-ce que tu veux faire contre des trucs comme ça?
Voilà. Donc là, vous savez qu'il y a normalement un débutant, quelqu'un qui découvre un peu le SAV, puis quelqu'un qui joue régulièrement et qui sait que dans le SAV, Shinji est un petit peu pervers des questions.
Mais je remarque que Bouchard, semble-t-il, est aussi d'accord.
Je peux dire que je suis un ancien du SAV et que il faut avoir saisi, en met du temps, mais à saisir le concept de la question du concours, mais une fois qu'on a compris, on calcule que, mais c'est un peu comme les SAV quand il y a le chiffre inutile, l'éphéméride, ça n'a rien à voir avec les femmes.
Parce que vous... non, parce que au départ tout le monde est un petit peu comme vous, hein, chers nouveaux auditeurs. Ils commencent tous par faire des questions sur la F1, etc. Puis après ils se résignent.
Oui, mais quand on fait des questions sur la F1, il y a deux voire une réponse.
Oui.
Donc quand on élargit le domaine, tu remarqueras, il y a souvent un petit peu plus de réponses.
Et donc, je tiens à saluer la performance. Donc, on prend cette question, Shinji.
Oui, tu es d'accord, Bouchard?
Ah, moi, oui.
Je tiens à saluer la performance de l'auteur de cette question qui a quand même, si je ne me trompe pas, la semaine dernière, réussi à nous demander la masse atomique du proton.
Oh non!
Qui aujourd'hui nous pose des questions sur les NEM. Donc, c'est dire vraiment qu'il sait s'adapter au niveau du SAV. Hein, puisqu'il s'agit du roi. Du top position.
C'est
il a espéré cette année enfin gagner quelque chose puisque c'est Globen.
Oui.
Globen qui gagne un petit ticket pour le tirage au sort que nous ferons en fin de saison. Bravo Globen. Encore
oui, parce
une fois.
Que Globen c'est comme Perez, c'est-à-dire qu'il se plante à 5 tours de la fin voilà. À chaque fois.
Globen il a gagné à l'époque où on offrait des magnettes.
Ouais, il a plein de magnettes.
Mais vrai qu'il gagne plus. Donc il a un beau frigo tout coloré, mais
il met les boucliers sa bibliothèque.
Donc bravo Globen. Je rappelle que pour répondre à cette question qui est la suivante, quelles sont les trois variétés de NEM les plus répandues? Vous avez jusqu'au mardi soir après le Grand Prix de Chine, 18h, pour nous envoyer vos réponses à l'adresse concours@savf1.fr. Donc voilà, n'oubliez pas de nous poser une question sur le Grand Prix suivant, qui sera donc le Grand Prix du Bahreïn. Potentiellement.
Alors, j'ai envie de dire sur le Bahreïn.
Voilà, soit voilà.
Alors, parce que bon.
Oui, voilà, sur le Bahreïn, sur le vide. Vous avez le droit de nous poser une question sur le.
On sait sur le vide.
On s'adapte. S'il n'y a pas le Grand Prix de Bahreïn, on
c'est vrai. Mais c'est vrai. Souviens-toi, c'est pas la première fois où parfois quand on a un doute, on offre un thème supplémentaire.
Voilà.
Hein, au cas où.
Voilà, donc sur Bahreïn ou le vide.
Voilà. Je crains le pire.
Vous interprétez ça comme vous voulez, mais le vide.
Un conseil, cher nouveau, concentrez-vous sur le vide.
Ouais.
Puisque généralement, ce sont ces questions-là qui ont le plus de chance.
Je rappelle, faut que je le dise pour les nouveaux, parce que les anciens qui nous écoutent le savent, hein, que le vide et Bahreïn, pour moi...
C'est la même chose.
La même chose. Bah justement, on va se tourner vers le prochain Grand Prix.
Oui.
Dans 3 semaines.
C'est loin.
Ça sera le 15 avril à Shanghai, et pas à Zhuhai.
Mais dis-moi, Shinji.
Oui.
J'ai une petite question. Que dois-je faire si je n'aime pas la Formule 1?
C'est vrai. La Chine qui sera un Grand Prix du dimanche matin, donc peut-être
à 9.
Vous avez encore envie de dormir ou peut-être envie de faire autre chose. C'est vrai que c'est un circuit qui est un peu décrié, donc peut-être aurez-vous envie de faire autre chose. Peut-être êtes-vous dépité en voyant que même Alonso peut gagner une course. Vous ne voulez plus jamais regarder une course de F1.
Oui, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire.
Eh bien, grâce à nous, vous allez avoir des idées hein, sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dans 3 semaines à la place du Grand Prix de Chine. Et Bouchard, c'est à toi.
J'ai trouvé que 3 idées.
Ah bah tu vas en trouver 7, tu te démerdes.
Ça va de...
pour toutes.
Par contre, je décline toute responsabilité pour les 4 que je vais devoir trouver.
C'est pas grave.
Alors, je me suis dit que le Grand Prix de Chine, quand même, il faut... Même si on s'y intéresse pas,
qu'on n'aime pas la F1, on pourrait au moins essayer de l'aider un peu, parce que c'est quand même la catastrophe, pour au moins essayer de faire croire que c'est une course qui plaît. Je sais que c'est dur, mais... Donc la première des choses, c'était... ce que vous pouvez faire pendant le Grand Prix, c'est découper des silhouettes en carton qu'on pourra mettre après dans les tribunes pour faire croire qu'il y a des spectateurs.
Ah, c'est pas con. Mmh. C'est très bien. Je trouve que c'est de la
c'est bien ça.
Sinon, pour essayer d'attirer les spectateurs, même ceux qui n'aiment pas les F1 pendant au Grand Prix, je sais pas, monter un numéro de cirque qu'on pourrait monter. Là, surtout, tu sais, il y a le grand virage. On pourrait y mettre un cirque au milieu, ça remplirait les tribunes qui sont toujours vides à cet endroit-là.
Et on pourrait même appeler ça le cirque, donner un nom d'astre, tu vois, genre le cirque du soleil, tu vois, un truc dans le genre.
Non, le cirque de la lune.
Oui, voilà, parce que c'est le moment où on dort.
Sinon, je me disais qu'on pourrait transformer les tribunes en camping low cost, histoire que comme ça, tu aurais des campeurs dans les tribunes et ça ferait toujours croire qu'il y a des mecs intéressés par la F1 en Chine.
Et vous inquiétez pas, de toute façon, hein, McLaren, Red Bull, Mercedes et Ferrari fournissent les tentes, donc ça va.
Oui.
Et plus que 4, Bichard.
Voilà. Il y en a qui se finissent. Pour rester dans le... Alors je sais, ouais, que c'est pas écolo tout ça, mais mettre des spots. Super méga puissant tout le tour du circuit, comme ça, quand les caméras sont braquées dessus, ça nous éblouit, on s'endort pas pendant le Grand Prix. Là, c'est, tu vois, le niveau tout de suite, c'est
oui, effectivement, on constate qu'il y a un peu de préparation.
Yeah, ouais.
Mais effectivement, si on est électricien et qu'on n'aime pas la F1, on peut s'amuser à mettre des spots autour du circuit de Shanghai. Plus que trois.
Encore
pas. C'est la vengeance du fan de Ferrari. C'est pas pareil.
Tu noteras quand même que là, je suis passé au niveau Ferrari maintenant.
Oui, voilà, c'est le niveau Trapanel.
Trapanello.
Il y a un nom de ville.
Mais j'ai plus d'idées là.
Imagine, Bouchard, je sais, c'est dur, mais imagine que tu n'es pas fan de Formule 1. Tu détestes ça. Que ferais-tu le dimanche matin du Grand Prix à 9h?
Je dormirais.
Est-ce que ça a déjà été dit, c'est la semaine dernière, Shinji?
Je ne crois pas.
Donc, c'est valable. Bon,
ça n'a pas été dit, je crois pas.
C'est valable. Tu peux dormir, effectivement, pendant le Grand Prix. Nous rappelons que ça ne sera plus valable à partir de maintenant, hein. Et plus que deux, Bichon. Qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre aussi?
Pas, je pourrais faire, préparer des... Je pourrais préparer des spaghettis pour les mécanos de Ferrari qui va en avoir besoin.
Dommage, ça a déjà été
fini.
Bon, je trouve autre chose. Je pourrais commencer à tondre la pelouse parce qu'avec le printemps qui arrive, les beaux jours qui commencent à revenir, il y en aura besoin.
Alors, je te préviens, par contre, on va l'accepter, mais on ne te défendra pas si tes voisins t'engueulent parce que le dimanche à 9h du matin, tonde ta pelouse, tu vas te faire engueuler.
Ah, t'as le droit à partir de 8h.
T'as le droit.
Hein. Mais le dimanche matin, je peux dire que moi, mon voisin, il tourne la pelouse de matin, j'ai quand même envie de l'engueuler. Même s'il a le droit, j'ai envie de l'engueuler.
De toute façon, on m'en fout, moi, j'ai pas de problème, mais bon. C'est d'ailleurs l'occasion de faire peut-être un petit ménage de printemps.
On l'a pas déjà dit, ça, Chili?
Je crois que ça a été dit, ça, le ménage.
Mais aller faire le marché.
T'as Shanghai, il est 9h là, pendant le Grand Prix, qu'est-ce que tu peux faire?
Aller faire le marché.
Le marché de Shanghai, effectivement, ça n'a jamais été dit. On a fait le marché de chez nous, mais le marché de Shanghai, on l'a jamais dit.
Parce que bon, peut-être que tu te fous de la F1, mais que t'es quand même à Shanghai.
Voilà.
Mais où que tu sois, tu peux faire le marché, c'est ça qui
voilà.
Oui, mais genre... ça a déjà été pris.
Ah. Et là, c'est le marché de Shanghai, Cindy.
Ah, moi, tu habites Shanghai, Bouchard?
Non.
C'est pas valable, dommage.
Donc c'est pas valable.
Mais si, c'est bon. Parce que imagine, s'il habite Shanghai, c'est-à-dire que le marché de Shanghai, c'est le marché de chez lui.
Ah donc, oui, ah non, d'accord, bah... ok, tout à fait.
Pour bon, ça, vous pouvez quand même vérifier.
Donc c'est valable. Bravo, ouais, Bouchard. Tu as tes...
J'ai rien compris.
Non mais tu verras, quand tu réécouteras, tu vas tout comprendre.
C'est ce qui fait peur.
Bravo, tu nous as donné cette chose que l'on pouvait faire pendant le Grand Prix. Alors, si ça vous est utile, hein, nous en sommes heureux. C'est la volonté du SAV, c'est d'aider tous les gens qui n'aiment pas la Formule 1, au point d'en écouter un podcast qui reconnaissons-le, parle très peu de Formule 1. Merci d'avoir été utile, et puis votez Ferrari et vive Alonso.
Donc oui, messieurs, cette course, dans 3 semaines, vos petits pronos.
Ah.
Non, tu peux pas lui dire. Tu sais très bien que ce sera sa seule victoire. Ou peut-être une deuxième, mais dans longtemps.
Button.
Hamilton.
Plus personne va dire Vettel maintenant. On dit plus Alonso, on dit plus Vettel aussi.
Je dirais plutôt Weber que Vettel, mais je sais pas. J'ai envie de dire une McLaren, c'est clair, mais.
Tu as le droit de dire une McLaren, hein, c'est pas.
Non, mais je veux dire, ça paraît le la possibilité la plus évidente, quoi, et la plus probable. Après, entre Hamilton et Button, j'aimerais bien que ce soit Button. Pour l'esprit SAV, on va dire.
Alors messieurs, on arrive à la fin de cette émission. Merci Bouchard de nous avoir accompagnés.
Avec plaisir, merci à vous de m'avoir accueilli.
Mais c'est un plaisir.
Rappelez-vous bien de cette émission, parce qu'une émission de 2012 où Alonso gagne...
C'est bon. On rira moins à Barcelone, hein, quand Alonso va sortir avec sa belle Ferrari, hein,
ouais,
un des flancs tout beau, tout propre, qui aura des super ailerons et tout, et qui va mettre une seconde à tout le monde. On va rigoler, hein. C'est la première victoire d'une non-série. Enfin, peut-être. Ah, on verra. Rapidement Barcelone.
Probablement. Donc, n'oubliez pas, la semaine prochaine, il y aura le magazine.
Ouais, on aura même deux matchs de suite, et là, on pourra répondre à vos questions, hein, sur le répondeur, répondeur@savf1.fr. N'hésitez pas. On a déjà des questions, mais n'hésitez pas.
Vous répondez à toutes les questions?
Toutes.
Même les tordues.
Tant qu'elles concernent la Formule 1, on accepte les questions.
Ah, parce qu'on va, parce que nous, les auditeurs, on va pouvoir monter le concours du répondeur du SAV. Ouais.
Donc n'oubliez pas, hein, la F1 sur internet, c'est sur FanF1, et comme d'habitude, et j'espère que cette semaine...
Oh merde. Sérieux, je me fais griller.
Encore griller.
Ouais, bon, je vais trouver, Shinji. Je vais trouver. Ça va devenir une nouvelle rubrique. C'est dis-nous, improvise un proverbe.
Sur ce, on vous souhaite un au revoir, et on vous laisse. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'il va y avoir un long temps de silence ou pas?
Bon, j'en profite pendant ce temps pour, je lui donne du temps pour dire au revoir et bonne soirée, bonne journée.
Bonne journée à tous.
Oui, puis en attendant, Shinji, tu peux peut-être rappeler aussi qu'on peut supporter quand participer à l'émission, ça m'arrangerait.
Sur
contact@savf1.fr.
Ben voilà, tu l'as fait.
Non mais répète-le, comme ça pour le montage, ça m'arrangeait.
Et comme ça, tu as du temps pour trouver.
N'oubliez pas, hein, si vous souhaitez participer à nos émissions après course, il y a de la place. Il suffit juste de nous envoyer un petit mail, hein, pour qu'on voit s'il y a une date précise que vous souhaitez, ou si peut-être dès le prochain Grand Prix. Le mail, c'est contact@savf1.fr. Et voilà, après on verra si vous avez possibilité, sachant que bien évidemment, on prend prioritairement les nouveaux, bien évidemment. Mais si vous êtes déjà passé, n'hésitez pas, hein, faudra toujours s'arranger.
C'est là où on voit que Shinji, c'est mon pote quand même, hein, parce que il a bien dilué le truc pendant 3 quarts d'heure.
Bien meublé.
Et que le pire, c'est que je l'ai écouté, donc du coup, j'ai pas réfléchi. Je vais réutiliser le mot trapanel. Et je vais dire, une trapanel ne fait pas le perdant. Ah, bon,
en même temps, quand tu les prépares pas, au moins on les comprend.
Non, mais tu vois, j'ai dit, une trapanelle ne fait pas le perdant. C'est bon. C'est bon, voilà. C'est mon plus beau proverbe, j'ai dit.
C'est ça qui m'inquiète.
C'est Victoire d'Alonso qui me fait ça.
Ah, ça va.
Heureusement qu'il va pas gagner souvent.